Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de cette journée et du beau temps dont nous pouvons profiter maintenant que l'été est là. Notre équipe est au complet depuis le retour du camp, et tout le monde est présent. Certains membres de mes services sont ravis de retrouver le soutien de leurs collègues qui leur avaient manqué pendant le camp. D'après tous les témoignages, ce fut un véritable succès. Je suis sûr que nous en saurons davantage à ce sujet dans les semaines à venir, notamment sur certains détails. Mais il s'agissait vraiment d'un programme destiné à aider les enfants à percevoir Dieu plus clairement dans leur vie. Et pour vous et moi, notre objectif est exactement le même dans notre vie chrétienne quotidienne. Que l'on ait 13, 15, 17, 25 ou 55 ans, notre objectif, chaque jour, et de voir comment Dieu intervient dans notre vie de tous les jours. Vous auriez pu vivre il y a 2000 ans ou 5000 ans, et en fin de compte, c'est ce que Dieu cherche à faire avec vous et moi. Comment est-il présent dans notre vie quotidienne? C'est un être qui existe depuis des milliers d'années. Pensez personnellement aux 200 dernières années, si vous avez vécu aussi longtemps, tant mieux pour vous. Si vous avez lu quelques livres d'histoire, c'est probablement plus probable. Mais qu'est-ce qui a changé au cours des 2000 dernières années? L'innovation, la société, les frontières, les pays, les nations. Qu'est-ce qui a changé au cours des 2000 dernières années? J'imagine que si vous preniez quelqu'un d'il y a 100 ans et que vous le transposiez dans le présent, il serait désorienté. Tout comme si vous preniez quelqu'un d'aujourd'hui et que vous le renvoyiez 200 ans en arrière, il mourrait de faim. Nous, en tant que peuple, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à changer avec le temps. Les sociétés, encore une fois, les nations, les peuples. Mais nous servons un être qui affirme clairement à plusieurs reprises qu'il ne change pas. Dieu et Christ ne changent pas. « Je ne change pas, dit-il, si je cite la version de la Bible du roi Jacques. » Mais quand on parcourt la Bible, il semble que ce que Dieu fait avec l'homme, cela change. Comment concilier ces deux choses? Il est le même être depuis toujours, depuis l'éternité. Mais clairement, si l'on commence par la Genèse et que l'on parcourt la Bible jusqu'à l'Apocalypse, la manière dont Dieu a agi avec l'homme semble avoir changé. Nous savons que son caractère ne change pas. Sa loi ne change pas. Son dessein, en fin de compte, ne change pas. Mais si nous remontons à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament, la manière dont il interagissait avec les êtres humains semble différente de celle observée dans le Nouveau Testament. Il semble que le sacerdoce ait changé depuis cette époque. Les sacrifices sont différents. Les symboles, les formes de culte. Pourquoi un être qui affirme ne pas changer semble-t-il avoir radicalement modifié sa manière d'agir avec les gens? Cela ressemble à une contradiction, n'est-ce pas? Pourquoi cette administration a-t-elle changé? Elle, l'ancienne alliance, a-t-elle échoué? Cette image de l'Ancien Testament a-t-elle finalement échoué? Alors Dieu dit, « Bon, je dois refaire ce processus. Je dois élaborer un nouveau plan. Vous savez quoi? Je n'ai pas eu la clairvoyance de prévoir ce que ces gens feraient. Alors, vous savez quoi? Faisons table rase du passé et recommençons à zéro. Est-ce cela qu'il a fait? A-t-il abandonné ce qu'il avait choisi de faire avec Israël? Car quand on regarde en arrière, c'est ce qu'il semble. Il y a eu une époque avec Abraham, puis Israël, et ensuite cela n'a pas fonctionné. Tous ces problèmes étaient-ils dus à un échec dans la manière dont Dieu a agi avec l'homme? Dieu a-t-il échoué? Eh bien sûr, vous allez répondre, non. Dieu n'a pas échoué. C'est l'homme qui a échoué. Mais Dieu est un être qui se situe au-delà de l'espace et du temps, qui a une vision d'ensemble bien plus large que celle dont ne pourraient jamais disposer les penseurs humains les plus éminents. Dieu aurait-il pu être en train d'élaborer? Bien sûr que oui, je tiens à le préciser. Mais je vais poser la question avec un brin d'ironie, Dieu aurait-il pu élaborer, au cours des 6000 dernières années, un plan plus grand encore, qui aboutirait finalement à l'accomplissement de la manière dont il agira avec les humains pour toujours? Je pourrais facilement dire que ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est l'élargissement de la manière dont Dieu agit auprès des hommes, et non la correction. La nation physique a préparé l'accomplissement spirituel. Les éléments, les sacrifices et les détails temporaires deviennent quelque chose de permanent. Et tandis qu'il préparait et agissait auprès de la nation, cela symbolisait son action auprès des êtres à travers l'univers. Dieu ne change pas de direction. Non, c'est un être, rappelez-vous, il ne change pas. Ainsi, si Dieu se dirige vers l'ouest, il continue à se diriger vers l'ouest. Mais parfois, son dessein supérieur peut nous sembler différent, à vous et à moi. Rappelez-vous, nos pensées ne sont pas ses pensées. Il voit les choses à un autre niveau. Il avance peut-être avec le même dessein, mais au fil du temps, qui n'est qu'un instant pour lui, rappelez-vous, 1000 ans ne sont qu'un jour pour Dieu, ces milliers d'années nous paraissent différentes, alors que pour Dieu, ce ne sont que des étapes d'un plan plus vaste. Retraçons donc aujourd'hui ce qui a changé dans l'administration de son alliance, tout en démontrant que le dessein de Dieu n'a pas changé d'un iota. Nous commencerons par quelques éléments simples. Nous progresserons progressivement, en remontant depuis l'époque d'Abraham jusqu'au royaume de Dieu. C'est un plan en place depuis des siècles, environ 6000 ans, et chaque étape a préparé la suivante pour aboutir à ce qui sera l'accomplissement ultime auquel vous et moi, en particulier vous et moi à la fin des temps, nous préparons. Commençons simplement, très simplement, par les bases mêmes de ce sujet, puis nous ouvrirons la Bible, passerons en revue certains récits bibliques et progresserons vers ce que nous recherchons. Je pourrais donc vous poser une question. Tout d'abord, je vais vous donner le point numéro 1, car sinon vous prendriez des notes et devriez ensuite revenir en arrière pour les corriger. Donc, point numéro 1, le dessein de Dieu a été établi avant toute alliance. Le dessein de Dieu a été établi avant toute alliance. Le mot alliance, c'est un terme biblique. Il y a toujours ces mots qui sont des termes bibliques. La lascivité, je l'ai déjà dit, mais c'était la première note que j'ai écrite sur une feuille blanche lors de mon tout premier sabbat. Tout ce que j'avais, c'était, je crois que c'était le 19 février, dans le coin en haut, parce que j'y avais inscrit la date, puis dans mes notes j'ai écrit, qu'est-ce que la lascivité? Mon tout premier sabbat. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais c'était un mot sophistiqué, et je voulais le chercher dans le dictionnaire. Je l'ai fait, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas aussi sophistiqué que je le pensais, et qu'il ne signifiait pas la chose positive que j'avais en quelque sorte imaginée. Je suis sûr que vous savez ce que ce mot signifie. Mais les mots bibliques, comme alliance. Eh bien, si vous faites des opérations bancaires, vous avez probablement déjà entendu ce terme. Si vous avez un prêt, en particulier un prêt commercial, il y aura des clauses restrictives. Qu'est-ce qu'une alliance exactement? Eh bien, si l'on s'en tient à la définition simple et au sens biblique, mais c'est la même chose, une alliance est un accord formel et contraignant entre deux parties, comme un contrat. C'est le même concept. Il s'agit d'établir une relation avec des conditions, des promesses et des obligations. Je vais le répéter. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord formel et contraignant entre deux parties, établissant une relation avec des conditions, des promesses et des obligations. Dans les Écritures, Dieu a toujours établi ses alliances selon le même principe. Il fixe des conditions, et l'homme répond en disant « J'accepte ces conditions ». Pensez à l'ancien Israël, lorsque Moïse a parlé de la loi et de tout le reste, puis au mont Horeb, avec tout ce bruit, ses cris, ses trompettes et cette puissance. Et le peuple a dit « Oui, nous obéirons », avant de ne pas le faire. Mais l'accord, le contrat, si vous voulez, d'une certaine manière, quand vous entendez le mot « alliance », pensez à un contrat. C'est une interprétation moderne très simple de ce que cela représente aujourd'hui. À tel point que nous allons signer un contrat, que vous allez signer un contrat, et que celui-ci contient des engagements que vous devez respecter. Mais contrat est peut-être le terme le plus simple. On pourrait donc se demander, quel est le contrat de l'Ancien Testament? Quel est le contrat du Nouveau Testament? Lorsque nous nous sommes immergés dans les eaux baptismales et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons conclu un contrat avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Les alliances ou contrats bibliques comprennent généralement des promesses, des conditions, un signe ou un sceau. Pensez à l'arc-en-ciel, à la circoncision, au sabbat. Mais ce n'est pas le but de Dieu en soi d'en faire l'élément clé. Il s'agit simplement d'un cadre que Dieu utilise à un moment donné, en fonction du peuple avec lequel il œuvre à ce moment-là. Si je conclus un accord pour tondre la pelouse de quelqu'un, je rédige un contrat. Il y a deux parties. Si j'ai 15 ans ou 7 ans, j'aurai peut-être ce contrat griffonné à la main. Et si l'on veut vraiment officialiser les choses, on dira « Je veux que tu signes ce contrat, car je vais tondre ta pelouse. » Eh bien, ce contrat ne va pas entrer dans les détails concernant l'entretien d'une voiture, car cela n'a aucun rapport avec cet accord entre ces deux personnes. Tout comme Dieu a établi une alliance ou un contrat avec l'ancien Israël, nous allons d'abord nous intéresser à Abraham. Il a établi un contrat qui était adapté à ses circonstances. Et pour vous et moi, il nous arrive parfois de regarder cela et de penser, on dirait que son contrat a changé. À la fin de notre réflexion d'aujourd'hui, vous verrez que l'accord sous-jacent à ce contrat plus large, on pourrait appeler cela les détails fondamentaux ou les alliances de base contenues dans ce contrat, n'a pas changé. Non. Ce sont simplement certaines des conditions initiales exagérées qui ont changé. Nous le verrons en entrant davantage dans les détails. Dieu avait toujours prévu de modifier la nature de ses alliances. C'est pourquoi il y en avait plusieurs. Car comme les personnes sont différentes, les circonstances requises le sont aussi. Si deux enfants de 6 ans concluent un accord pour jouer à chat ensemble, leurs circonstances et les détails de leur accord seront très différents de ceux de deux trentenaires concluant un accord pour jouer à chat ensemble. Deux types de personnes, avec des mentalités et des expériences différentes, jouant au même jeu, aboutiraient à des conditions d'accord très différentes, même si, au fond, il s'agit toujours d'un jeu dit de chat. Restez simple. N'essayez pas de compliquer les choses à outrance, car c'est ce que fait la Bible d'une certaine manière quand on y réfléchit. Parce qu'on se dit, « Oh, mais il y a ceci, et il y a les sacrifices, puis parfois les animaux, et ensuite l'offrande de paix. » Non, non, non. Simplifiez. Qu'est-ce que Dieu essayait de faire? Quel était le jeu ou l'objectif sous-jacent à tous ces termes qui venaient s'y superposer? Allons au chapitre 1 de la Genèse. Le chapitre 1 de la Genèse, dès le début de la Bible. Je dois toujours faire attention, car ma Bible a besoin d'être reliée à nouveau, alors je l'ouvre doucement. Je ne tourne pas beaucoup les pages. Mais la Genèse est fragile. Il faut la recréer dans ma Bible. C'était plus drôle que vous ne le pensiez, mais réfléchissez-y un instant. Mais je vais recréer la Genèse. Verset 26. Nous commencerons un peu plus loin. Verset 26 du récit de la Genèse. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Rappelez-vous, Dieu avait un dessein qu'il avait établi avant toute alliance. Nous sommes dans Genèse 1. C'est tout au début. La recréation a eu lieu. Voici la terre qui revient. Dieu dit à nouveau au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. L'homme a tout gâché, et ce depuis longtemps, surtout à l'ère moderne. Il suffit de regarder la terre qui nous entoure, la pollution, les substances toxiques, les plastiques, etc. Mais le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Tel était le dessein de Dieu avant que quoi que ce soit n'arrive, avant même qu'il n'y ait d'êtres humains pour prendre pleinement soin de tout. Il a créé Adam et Ève, puis, en fin de compte, tous les hommes qui leur ont succédé, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, et jusqu'à vous et moi aujourd'hui, à son image, à sa ressemblance, dans le but que nous exercions la domination sur la terre, que nous la gouvernions. C'est cela, la domination, c'est simplement gouverner, exercer l'autorité sur la terre. Tout chrétien, dès lors qu'il a suivi la voie de Dieu ou qu'il connaît la Bible de quelque manière que ce soit, reconnaîtra immédiatement cette idée. Ainsi, Dieu a dit dans Genèse 1, « Je veux que l'homme règne sur la terre ». Cela vous semble-t-il familier? Comme lorsque nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans, une fois que l'on arrive à l'Apocalypse, à l'autre extrémité de la Bible, Dieu voulait que nous soyons à son image, que nous développions son caractère, que nous entrions dans sa famille. Ce sont là les fondements même de ce que signifie être chrétien. Évidemment, le monde ne comprend pas certaines de ces choses fondamentales, mais vous et moi, oui. Nous avons dû apprendre à gouverner le monde sous l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, ses instructions, son gouvernement existait bien avant que tous ne se rassemblent autour du mont Sinaï. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il avait prévu pour Adam et Ève, qu'ils partent, se multiplient, soient féconds et prennent possession du monde. Ce qu'il voulait, c'était qu'ils aient l'Esprit de Dieu et qu'ils agissent selon ce qu'il avait prévu depuis la nuit des temps, au moment où il l'avait décidé, ce qui est une question ou une discussion amusante à avoir avec Dieu, même si elle repose sur la notion de temps. Mais Dieu, quand as-tu décidé que Satan allait se rebeller et que tu devrais, en fait, changer le scénario? Avais-tu conclu une alliance avec les anges? On pourrait s'écarter du sujet, et ce n'est que pure spéculation, mais c'est fascinant quand on pense à un être qui est destiné à l'éternité ou qui a existé. Dieu avait un dessein, mes frères, et ce dessein existait en premier lieu. Et chaque alliance, chaque contrat qui a suivi ce récit avait pour but d'aider à ratifier, à faciliter ou à établir les conditions nécessaires à la réalisation de ce dessein. Passons au Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à l'adoption filiale, ou à la filiation, par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 9. En nous faisant connaître le mystère de sa volonté, nous comprenons quelle est la volonté ultime de Dieu, nous venons de la lire, selon le bon plaisir qu'il s'était proposé en lui-même, afin que, dans la dispensation de la plénitude ou de l'accomplissement des temps. Ainsi, dans la perspective de l'accomplissement des temps, c'est-à-dire dans la vision d'ensemble, l'aboutissement final, la partie toute dernière, afin de rassembler en un tout toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. En fin de compte, c'est ce que Dieu veut accomplir, à la fin de son dessein. Verset 11. En qui nous avons aussi obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Frères et sœurs, nous avons été appelés dans ce but. Pour accomplir tout ce qui est décrit ici. Dieu nous connaissait, comme le montrent d'autres versets, avant la fondation du monde. Il a imaginé un temps où vous et moi serions assis aux places où nous sommes assis aujourd'hui, alors que nous nous préparons à faire partie de cette famille de Dieu pour accomplir la dispensation de la plénitude des temps. Dieu n'a pas réagi aux hommes. C'est lui qui a conçu ce dessein. C'est lui qui a créé les hommes, mais chaque étape du chemin a nécessité des administrations différentes. Vous pouvez consulter un verset du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont moins souvent mutés, car ils restent davantage ancrés dans leur région d'origine. Autrefois, en revanche, ils étaient mutés tous les 7 ans environ. Et lorsqu'ils étaient mutés, ils continuaient bien sûr à enseigner la vérité, mais ils avaient, comme la Bible l'appelle parfois, des différences d'administration. Ils agissaient donc de manière légèrement différente selon les circonstances, le pasteur, la façon dont il avait été formé et le type de formation qu'il avait reçu. Ils pouvaient avoir des approches différentes. Prenons l'exemple de 2 personnes dirigeant un service dans une entreprise. Si un responsable est promu et qu'une autre personne vient prendre la relève, celle-ci peut adopter une approche différente, ce qui constitue une différence d'administration. Ce même responsable pourrait être promu, disons, à un poste de direction supérieur et s'entourer d'une équipe différente. Il gérera alors les choses différemment, car l'équipe qui l'entoure a changé. Il en va de même pour Dieu. Dieu adapte sa manière d'administrer en fonction de ceux qui l'entourent. Si nous pouvons comprendre cela, bien sûr, Dieu le peut aussi. Dieu a commencé à agir ainsi parce qu'il poursuit ce dessein. Et puis il a commencé par ce qu'on pourrait appeler la première alliance formelle. Nous ne l'appelons pas ainsi, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. On parle généralement de l'alliance de l'Ancien Testament et de l'alliance du Nouveau Testament. Mais rappelez-vous qu'une alliance n'est qu'un contrat. Il y a donc eu des alliances, si je peux le dire entre guillemets, avant cela. Il y a eu des alliances ou des contrats conclus avant cela. Deuxième point. Je vais vous dévoiler la surprise avant que nous examinions le verset et que nous retournions à la Genèse, numéro 2, l'alliance d'Abraham. Vous pourriez dire « contrat » si vous préférez écrire ce mot. Ces deux termes sont presque interchangeables. L'alliance d'Abraham dépassait le cadre d'un seul homme ou d'une seule nation, même si, à l'époque, elle semblait probablement ne concerner qu'Abraham et Dieu. Donc, ce deuxième point, je le répète, l'alliance d'Abraham dépassait le cadre d'un seul homme ou d'une seule nation. Revenons cette fois-ci au chapitre 12 de la Genèse. Prenons un peu de temps sur la Genèse, car il est important que nous examinions le tout début. Il y a une feuille volante juste là, et c'est le chapitre 12. Avant d'aborder l'alliance du Nouveau Testament, tout ce qu'elle signifie et toutes ses implications spirituelles, il est important que nous examinions d'abord l'Ancien Testament, car c'est le fondement. Il est important de voir que le dessein de Dieu n'a jamais changé. Et nous allons bien ancrer cela dans nos esprits car, en tant que chrétien, surtout si vous venez d'être appelé et que vous sortez d'une église protestante, quelle qu'elle soit, baptiste, catholique, peu importe, l'Ancien Testament est un livre très lointain pour vous, car il ne semble pas s'appliquer à vous, n'est-ce pas? Vous verrez souvent, dans les chambres d'hôtel, des Bibles, je pense notamment à la Bible de Gédéon et souvent à d'autres, qui ne contiennent que le Nouveau Testament, ou qui sont des éditions réduites. On peut tout simplement acheter le Nouveau Testament. Imaginez ce que Dieu en pense, juste comme cela, en passant. L'homme a décidé, vous savez quoi? Ce livre tout entier est la parole inspirée de Dieu, le bibelot, mais j'ai décidé que, vous savez quoi? Seul, je ne sais pas, environ un quart à un tiers de celui-ci est applicable. C'est une démarche audacieuse de la part de l'homme, mais c'est ce qu'il a fait. L'Ancien Testament est donc essentiel. Il est important de comprendre comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui en regardant d'où nous venons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit Salomon. Nous sommes donc dans la Genèse. Nous allons commencer au verset 1 du chapitre 12. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham ou à Abraham, comme on l'appellera par la suite, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu est donc en train de mettre quelque chose en place. Il fixe les conditions, d'accord? Si vous signez un accord avec quelqu'un, c'est que vous en attendez quelque chose en retour. Si je me rends chez un concessionnaire automobile et que j'appose ma signature au bas d'un document, j'obtiens la voiture en échange. Cela fait partie de la négociation. Et en réalité, ce que Dieu fait ici, c'est négocier avec Abraham. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je ne veux pas que cela semble banal, mais Dieu expose ici tous les avantages de ce qui est sur le point d'arriver. Tout comme lorsque l'on essaie de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose, on ne commence pas par les aspects négatifs. On ne commence pas par les contraintes. Dieu commence par les bénédictions. Verset 7, « Et le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et là, il bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Bon, voilà le contexte. Mais Dieu a commencé par dire, « Tu sais quoi ? Abraham, voici tout ce que tu peux faire, voici tout ce que tu recevras, mais la première étape, il y a là un petit peu d'obéissance, n'est-ce pas ? Et une obéissance que l'on devine presque dès le verset 1 qui ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers un lieu dont je ne t'ai même pas encore parlé. Lève-toi et pars, tout simplement. Mais s'il était prêt à obéir à Dieu, tout le reste de cet accord serait en place. Passons au chapitre 22 de la Genèse. Tournez quelques pages jusqu'au chapitre 22. Tout a commencé par lui, par son obéissance. Et tous les contrats avec Dieu commencent en réalité tout simplement par l'obéissance. Lorsque vous avez été appelé et que vous avez décidé, tu sais quoi? Je dois obéir à Dieu. Je dois renoncer au sandwich au jambon ou je dois respecter le sabbat, ou quel que soit l'aspect concret qui se manifeste lorsque vous êtes appelé, je ne peux pas aller au culte du dimanche. Oh là là, regardez, la Pentecôte ou la Pâque, où je dois observer la fête, quoi que ce soit, je ne devrais pas fumer, cela a commencé par une sorte d'obéissance concrète, généralement, à ce que vous apprenez. Et c'est la même chose avec Abraham. On ne nous promet pas simplement d'être une grande nation, ou plutôt, nous promettons vraiment d'être une grande nation. Genèse 22, verset 15. Et l'ange de l'Éternel appela Abraham qui avait été rebaptisé à ce moment-là, du ciel pour la deuxième fois, et il dit, « Par moi-même, j'ai juré, dit l'Éternel. » Dieu peut donc jurer par lui-même. Eh bien, vous et moi, nous ne le pouvons pas. Parce que tu as fait cela, tout ce qui avait été mis en place, il a levé le couteau pour tuer son fils, Isaac, son fils unique, confiant que Dieu le ressusciterait. Il savait qu'il y avait une promesse. Nous venons de la lire au chapitre 12. On ne peut pas faire une grande nation à partir d'un enfant mort. Abraham a donc agi par foi. Il a donc levé ce couteau. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et tu posséderas la porte de tes ennemis. Et en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. Tu as rempli ta part du contrat, et Dieu est un être qui affirme ne pas pouvoir mentir. Il doit donc remplir sa part de ce même contrat. Avec un homme, pourrait-on dire, un seul homme, mais en fin de compte, la promesse de quelque chose de bien plus grand. Dieu s'est adressé à Abraham, et Christ, dans ce cas précis, a dit, « Je vais conclure cette alliance avec toi. Si tu m'obéis, je ferai de toi une grande nation. Les nations de la terre seront bénies. » Puis, on est passé d'un homme, d'une famille, d'un ensemble d'alliances, à Dieu disant, « Je vais faire de toi une grande nation. » Ce n'est pas un changement. C'est simplement Dieu qui visualise où cela va mener. Dans ce récit, il n'a pas dit à Abraham, « Je vais faire de toi une nation éternelle. » Cela viendra plus tard. « Je vais faire de toi une grande nation. » Et Israël est assurément devenu cela. Peu importe à quoi ressemble Israël aujourd'hui, même s'il ne sait pas qui il est. Nous sommes toujours, les États-Unis, le Canada, la France, tous les pays, l'Australie, je pourrais tous les citer de grandes nations. Elles commettent beaucoup de mauvaises actions. Sur le plan moral, elles sont corrompues. Mais cela ne change rien au fait qu'elles sont des grandes nations, puissantes à travers le monde. Ainsi, la promesse de Dieu s'est étendue, passant de la promesse faite à un seul homme, Abraham, à une bénédiction mondiale, car toutes les nations seront bénies par l'obéissance d'Abraham. Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Le chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Le sermon d'aujourd'hui est un peu différent. Nous n'allons pas repartir avec l'appel à l'action du genre « Allez faire ceci, faites cela ». Non, je veux que vous repartiez aujourd'hui en pensant « Je comprends ce que Dieu a accompli depuis 6000 ans ». Frères et sœurs, cela devrait renforcer votre foi. Et la foi est presque aussi importante, voire bien plus importante, que ce que vous devez aller faire une fois le message terminé. Ce que vous devez faire, c'est réfléchir et méditer sur un être capable de planifier quelque chose pendant 6000 ans, d'en voir l'issue, puis de prendre les mesures nécessaires, de modifier les termes de l'accord, d'ajuster les détails à mettre en œuvre pour garantir que le but ultime, la volonté de Dieu, soit finalement accompli. Galates 3, verset 26. Galates, chapitre 3. Verset 26. Je vais vous laisser trouver ce passage, et je vais prendre un verre. Verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Essayez de lui ressembler davantage. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Dieu ne nous voit pas comme des personnes noires, blanches ou jaunes, ni comme des hommes ou des femmes, ni comme des personnes grandes ou petites, ni selon aucun autre critère physique propre aux êtres humains. C'est pourquoi l'Église de Dieu est un exemple extraordinaire, que vous alliez à l'Église de Dieu, dans une congrégation, à un service du sabbat ou sur un site de fête en Afrique du Sud, et vous y trouverez le même esprit, la même attitude, la même ferveur, la même absence de discrimination raciale. Qu'il s'agisse de l'Australie, du Pérou, du Royaume-Uni, du Canada ou de n'importe quel autre endroit du monde, c'est la même chose, car il ne voit pas ses caractéristiques physiques. Verset 29. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Peu importe que vous descendiez de Cham ou de Sem. Non, non. Dieu dit, non, je me moque de votre ascendance physique. Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, lorsque vous obéissez à Dieu, il dit, non, non, vous êtes de la descendance d'Abraham, car en fin de compte, nous sommes l'Israël spirituel à ce moment-là. Et nous verrons qu'il n'y a plus à ce sujet au fur et à mesure que nous avancerons. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas rejeté les promesses faites à Abraham. Il ne s'agissait pas d'un revirement du genre, peu importe ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Oubliez le fait que j'ai fait ces choses avec Abraham, que nous allions devenir une grande nation et qu'ils ont en quelque sorte échoué. Dieu dit, non, 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 non. J'avais prévu tout cela depuis le début. Je sais comment fonctionnent les êtres humains. Je vous ai créé. J'ai très vite compris où cela pouvait mener. J'étais hors de l'espace et du temps, et je pouvais observer ce qui se passait et comprendre que j'avais besoin d'un plan plus grand qui permette à l'humanité de traverser le processus qu'elle devait traverser pour que vous puissiez devenir Dieu. Je pourrais devenir Dieu. Nous avons un être bien plus grand que vous et moi. C'est lui que nous servons. Christ a permis que le dessein spirituel devienne plus clair, afin que nous puissions voir davantage sur le plan spirituel que sur le plan physique. Car c'est ainsi que cela a commencé. C'était très physique. Ainsi, ce qui a commencé par une seule famille, mes frères, voilà ce qui est extraordinaire chez Dieu. À quel point cela ne change-t-il pas? Ce qui a commencé par une seule famille devient finalement une seule famille. Ce qui a commencé par une seule famille avec Abraham devient finalement une seule famille avec Dieu. Faire partie de la famille de Dieu fait de nous une seule famille. C'est pourquoi peu importe que vous soyez un homme, une femme, grec, juif, noir, blanc, jaune, ou quoi que ce soit d'autre. Tel est son objectif. Au Sinaï, les descendants d'Abraham ont été constitués en nation. Cette nation de l'Alliance constituait une deuxième étape pour parvenir à cette famille spirituelle. Troisième point. Au Sinaï, Dieu a élargi son alliance pour en faire un pacte avec une nation tout entière. Au Sinaï, Dieu a élargi son alliance pour en faire un pacte avec une nation tout entière. Dieu avait promis cela à Abraham. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait eu autant de descendants que le sable de la mer. Il a dit, « Je leur donnerai une terre. Je les ferai prospérer. Tu auras des descendants. Ils auront un lieu où vivre. » Telles étaient toutes les promesses faites à Abraham. Bien sûr, Dieu tient toujours ses promesses, à condition que nous respections notre part du contrat. Comme dans tout contrat, si l'une des parties rompt le contrat, celui-ci est rompu. Cela a des conséquences, tout comme cela en a pour Dieu. Et Dieu est plus miséricordieux que n'importe quel contrat que nous signons aujourd'hui. Vous avez probablement déjà conclu un accord, il n'est peut-être pas écrit ni signé, mais vous avez un accord avec quelqu'un, et l'une des deux parties commet une erreur. Vous vous réunissez alors pour discuter de la manière de remédier à cette erreur. Dans le cas de Dieu, certaines de ces réparations ont pris la forme de l'esclavage, de la captivité d'Israël, de leurs cris de détresse et de la prise de conscience de ce qu'ils avaient fait, puis de leur promesse de revenir vers Dieu, et ils ont répété cela encore et encore et encore. Passons au chapitre 19 de l'Exode. Exode 19. À quel point l'accord conclu avec Abraham était-il simple? Abraham, obéis-moi, et je ferai de toi une nation. C'était littéralement cela. Et la partie la plus importante de l'épreuve d'obéissance concernait évidemment Isaac, mais avant cela, il y avait, es-tu prêt à tout quitter? Es-tu prêt à te lever et à tout laisser derrière toi? Et Abraham l'a fait, et Dieu a dit, très bien. Si je veux tenir ces promesses, je vais passer à l'étape suivante. J'ai besoin de prouver ton obéissance. Tu fais partie de l'accord, tes conditions sont une obéissance totale envers moi, a dit Dieu à Abraham. Et il eut plusieurs épreuves tout au long de ce processus pour s'assurer qu'il respectait sa part du contrat. Si vous signez un contrat, si vous contractez un prêt auprès d'une banque ou toute autre transaction de ce type, il y a des épreuves. Si vous ne payez pas les mensualités de votre voiture, vous échouez à l'épreuve. Cela peut avoir des répercussions. Au final, on vous reprend votre voiture. Dieu voulait qu'Abraham passe ces épreuves pour s'assurer que son obéissance, ses conditions, étaient respectées. Et lorsqu'il les a réussies, Dieu lui a fait ses promesses et les a tenues. Et cela s'est transformé en un système de gouvernement complet, car avec une seule personne, il s'agit simplement d'une épreuve d'obéissance. Avec une nation, il faut un mode de gouvernement, un culte, il faut la justice, il faut la vie nationale, le cadre définissant ce à quoi ressemble une nation et comment elle fonctionne. Vous en êtes probablement à l'Exode chapitre 19 à ce stade. J'ai deux chapitres de retard, alors laissez-moi y arriver. Exode, chapitre 19, à partir du verset 3. Verset 3, Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et ce que tu annonceras aux enfants d'Israël. Nous sommes sur le point de définir certaines conditions pour ce prochain contrat, ce prochain accord. Les choses s'étaient assombries pendant un certain temps. Abraham n'était plus là, donc la situation avait changé, mais vous avez désormais cette grande nation. Elle sort de la captivité. Elle se portait bien. Vous pouvez repenser à tout le récit de l'Ancien Testament, à Josué, et à l'entrée en Égypte. Tout cela s'est produit, et maintenant, le peuple est sorti d'Égypte. Et maintenant, Dieu a dit, rétablissons les conditions. L'ancien contrat n'est plus applicable de la même manière. Nous ne sommes plus une seule personne ni une seule famille. Nous sommes une nation. Et maintenant, les conditions doivent être élargies pour s'appliquer à tout le peuple, tout comme les parties concernées par un changement devraient modifier, mettre à jour, adapter ou élargir les conditions. Si j'ai un accord avec deux personnes, prenons un autre exemple. Si vous avez personnellement un accord avec, disons, une banque, et que cette banque est rachetée par une autre banque, soudain, Le contrat que vous avez devra peut-être être modifié pour que ces clauses s'appliquent à cette nouvelle organisation. Or, Dieu n'a pas changé. C'est lui qui détenait le contrat initial. La famille est devenue une nation. Certains de ces termes ont donc dû être modifiés, car il s'agissait désormais d'une banque bien plus grande, si l'on peut dire. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Or donc, si vous obéissez vraiment à ma voix, cela vous semble-t-il si différent? Et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Eh bien, monsieur Chelofé, vous avez dit que les choses avaient changé. Nous y venons. Mais le but a-t-il changé? Je ne sais pas. Dieu a toujours voulu que les gens lui obéissent tout simplement parce qu'il nous a créés. Il sait comment vous et moi pouvons mener une vie heureuse, épanouie et, en fin de compte, abondante en faisant ce qu'il nous dit de faire. Ce qu'il veut donc vraiment, c'est que vous et moi soyons capables de lui obéir tout simplement pour recevoir ses promesses. Cela n'a jamais changé, ni à l'époque d'Abraham, ni à celle d'Israël, ni lorsque Dieu vous a appelé, vous et moi, à notre époque. Il suffit simplement d'obéir. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu agit à travers un seul homme, tout comme il avait agi à travers un seul homme, Abraham, pour fonder une nation. Moïse vint alors convoquer les anciens du peuple et leur exposa toutes les paroles que l'Éternel lui avait prescrites. Et le peuple répondit d'une seule voix. Il dit, « Oui, nous signerons ce contrat. Nous le ferons, Dieu. » La Bible l'exprime ainsi, et ils dirent, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Les deux parties acceptèrent les conditions. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est ainsi que commença ce que nous considérons souvent comme l'alliance de l'Ancien Testament. Mais vous pouvez voir, rien que dans ce récit, que Dieu a dit « Gardez mon alliance ». Elle avait déjà été établie par Abraham. Cela n'a pas changé, car l'alliance consistait simplement à obéir à Dieu. Mais Abraham était quelqu'un qui devait avoir l'Esprit de Dieu. La manière dont on agit avec quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu est très différente de celle avec laquelle on agit avec quelqu'un qui ne l'a pas, car si l'on perçoit les choses physiquement, on réagit physiquement. On accomplit des actions qui sont physiques. C'est pourquoi, lorsque les gens partent en camp, leur enseignons-nous des choses sur Dieu et sur le spirituel. Oui, bien sûr. Mais le camp consiste-t-il uniquement à enseigner que Dieu est source de plaisir pour les gens? C'est amusant d'être jeune et d'obéir à Dieu, avec tout ce que cela implique, tous les avantages concrets, car ils ont un esprit concret. Cela ne les rend pas inférieurs. Cela signifie simplement qu'ils se trouvent à une étape différente du processus. Tout comme c'était le cas pour l'Israël physique, Dieu voulait qu'ils obéissent. Il leur a imposé toutes ces contraintes afin qu'ils soient, en substance, contraints de marcher d'une manière qui les empêcha de s'égarer. Ils l'ont fait, mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Dieu a rétabli ses termes d'alliance avec ce qui est désormais une nation que Dieu a dit vouloir gouverner. Il a dit qu'ils seraient une nation de prêtres. Ils accompliraient toutes ces choses extraordinaires. Il les bénirait. Passons au chapitre 4 du Deutéronome, Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Deutéronome 4, 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, toutes les règles qui ont précédé ont été établies. Jusqu'à l'obligation d'installer un parapet sur les toits pour que les gens ne tombent pas. Il y avait tant de lois, de statuts et de jugements à mettre en place pour qu'une nation physique et tous les détails nécessaires à son fonctionnement soient en place. Je vous ai enseigné ces lois et ces ordonnances, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Observez-les donc et mettez-les en pratique. Car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront toutes ces lois et diront, assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est-il de si grande qui est un Dieu si proche d'elle? L'obéissance à Dieu révèle, en tant que peuple, même un peuple physique, la présence de Dieu. Elle rend gloire à Dieu, car leur obéissance montre qu'ils accomplissent quelque chose ou qu'ils appartiennent, si l'on veut, à quelque chose de plus grand. Car le Seigneur votre Dieu est présent en toutes choses lorsque nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle nation y a-t-il qui soit si grande et qui ait des lois et des jugements aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Tout était clairement énoncé pour Israël. Il leur suffisait simplement d'obéir à Dieu. Ils avaient la possibilité de former une nation physique parfaite, mais ils ne l'ont tout simplement pas fait. Ils auraient pu démontrer à toutes les nations du monde à quel point les systèmes de Dieu sont justes. Ils auraient pu montrer, voici l'exemple. Voilà comment on obéit. Nous n'étions qu'une nation d'esclaves, et regardez à quel point nous sommes devenus grands et puissants parce que nous obéissons à Dieu. C'était un cycle. Il suffit de se pencher sur l'Ancien Testament. Parfois, ils s'en sortaient bien, puis ils tombaient dans la déchéance, avant de se relever péniblement. Cela se répète sans cesse, ce qui est propre aux êtres humains. Ils ne disposent pas de la force qui soutient, celle que l'Esprit de Dieu nous donne, à vous et à moi, et qui nous aide. Mais franchement, nous agissons de manière similaire. Peut-être pas de façon aussi extrême qu'une nation. Mais parfois, vous êtes enflammé, et d'autres fois, c'est, votre ardeur s'affaiblit. Vous demandez à Dieu de vous rendre plus fort, et il le fait parce que vous avez l'Esprit de Dieu. C'est différent. La manière de travailler avec les gens est différente selon qu'ils sont spirituels ou qu'ils sont charnels. La faiblesse ne résidait donc pas dans les lois, les statuts et les jugements. Non, 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 non. La faiblesse résidait dans la volonté des gens de s'y conformer. Ce n'était pas une question de capacité. Ils en étaient capables. Si on me dit que je dois construire quelque chose d'une certaine manière, ou si on me dit qu'une offrande doit être faite ainsi, ou qu'il faut tuer tel type d'animal, l'abattre de telle façon et le placer sur le poteau, si on me donne toutes ces étapes, c'est une fiche d'instruction. Si je fais de l'exercice le matin et que je consulte la liste des exercices à effectuer, c'est une notice d'instruction. Je choisis simplement de suivre ces instructions, ou je ne le fais pas. Israël a simplement choisi de ne pas les suivre, encore et encore. Donc, quatrième point, la faiblesse de l'ancienne alliance ne résidait pas dans la loi de Dieu. Encore une fois, la faiblesse de l'ancienne alliance ne résidait pas dans la loi de Dieu. Israël a échoué à rester fidèle, encore et encore. Jérémie a prédit le moment où la nouvelle alliance serait établie avec Israël et donnée à Juda, car il n'arrêtait pas d'échouer, d'être emmené en captivité, de faire appel à un juge, ou quoi que ce soit d'autre, encore et encore et encore, parce qu'il passait par des moments, comme les êtres humains ont tendance à le faire, où, lorsque les choses sont difficiles, ils crient vers Dieu. Peu m'importe que vous soyez athée, mais si vous voyez du feu et du soufre tomber du ciel, à moins d'en arriver au point d'être complètement brûlé, mais si ce n'est pas le cas, vous devenez soudainement un croyant très fervent lorsque la mort vous regarde droit dans les yeux. Cela ne signifie pas nécessairement que vous croyez en la bonne chose, mais vous êtes beaucoup plus ouvert à une puissance supérieure lorsque la mort est proche. Quand tout va bien, il est plus facile de se fier à notre propre raison, de compter sur nous-mêmes, de se dire, tu sais quoi? Je m'en sors très bien. C'est ce qu'a fait Israël. Passons au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux cite le récit de Jérémie. Nous allons donc l'examiner sous l'angle du Nouveau Testament. Chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Commençons au verset 6. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, dans la mesure où il est aussi le médiateur d'une alliance meilleure, une alliance meilleure, qui a été établie sur de meilleures promesses. Très bien. Laissons cela faire son chemin pendant que nous lisons. Car si cette première alliance avait été sans défaut, bon, attention à ne pas tirer de conclusions hâtives, alors il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Donc, si la première avait permis à tout le monde d'agir correctement, aurions-nous besoin de la seconde? C'est ce que le texte semble indiquer. Continuons. Verset 8. Ayant trouvé à redire à leur égard, quand on dit sans défaut, ce n'est pas la loi de Dieu qui est en défaut. Ayant trouvé à redire à leur égard, il a dit, voici, les jours viennent, rappelez-vous, nous citons Jérémie. Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance. Elle viendra. Il n'est donc même pas question ici de l'alliance du Nouveau Testament. Il est question des jours où elle viendra. Une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non pas selon l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Non, c'est différent de cela. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Non pas parce que mon alliance était mauvaise, mais parce qu'Israël n'a pas obéi. La seule façon d'échouer face à ce que Dieu nous a donné, à vous, à moi et à Israël, à chaque homme depuis Adam, lorsqu'il a été choisi pour être capable de faire ce qui est juste et qu'il ne l'a pas fait, c'était cet objectif de faire partie de la famille de Dieu. C'est le contrat qu'il a établi avec nous. Mais l'humanité n'a cessé de commettre des erreurs. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je ne les ai pas considérés. C'était un peu comme si Dieu avait dit, d'accord, très bien. Vous voulez rompre le contrat? Je le romprai moi-même. Car voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dans un avenir pas trop lointain, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit, et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai pour eux un Dieu, et ils seront pour moi un peuple. La seule façon pour que la loi de Dieu passe du statut de texte que l'on peut lire dans un livre à celui de quelque chose qui est dans nos esprits, inscrit dans nos cœurs, c'est que nos cœurs passent de cet état de cœur de pierre, que possèdent les êtres humains physiques, à celui d'un cœur de chair dans lequel Dieu peut alors écrire. C'est cela, la conversion. Lorsque nous sommes convertis, Dieu est capable d'inscrire des choses dans nos cœurs. Ce qu'il dit donc, c'est, il viendra un temps où j'agirai auprès d'une nation comme Israël, car il les appelle Israël et Juda. Il s'agit donc du même peuple, mais la manière dont il agira auprès d'eux changera, car toute la nation sera animée par l'Esprit de Dieu. C'est une manière très différente d'agir auprès des gens. Vous et moi, nous sommes fondamentalement différents dans la manière dont Dieu agit en nous, car nous avons son esprit en nous. Cela a transformé notre esprit. Cela nous permet de changer. Cela nous permet de rejeter certaines pensées, de contrôler nos pensées. Cela nous permet de grandir, de nous développer et de devenir davantage à l'image de Dieu, de revêtir Christ, puis de forger ce caractère. Car il va inscrire cette nouvelle alliance dans leur esprit. Et le fait d'avoir l'Esprit de Dieu ouvre la voie au changement. En fin de compte, ce changement consiste à devenir comme Dieu et à recevoir la vie éternelle. La faute leur incombait. Le peuple n'a tout simplement pas persévéré dans l'alliance. Les mêmes lois sont placées dans notre esprit et inscrites dans notre cœur. Nous devons obéir à Dieu, car c'est là l'essentiel. Tout ce qui s'ajoute à cela, les sacrifices, les statuts, tous les détails sur la manière de manifester la conversion, l'obéissance et la repentance, exigés, pour une nation physique, des actions physiques et des sacrifices. Toutes les offrandes de sang et les offrandes sacrificielles de base, on pourrait énumérer toute la liste des offrandes, viser simplement à montrer à une nation physique à quoi devait ressembler la conversion, la repentance et l'obéissance lorsqu'elles sont inscrites dans nos cœurs. Dieu va donc rétablir les sacrifices au cours du millénaire, dans leur royaume, afin de montrer aux gens à quoi cela ressemble, car tout le monde ne possédera pas d'emblée l'Esprit de Dieu. Vous aurez de nouveau affaire à des personnes physiques. L'Esprit de Dieu n'est pas répandu universellement, car il y a encore des personnes physiques. Il faut donc accomplir ces actes physiques. Ils seront simplement administrés de manière beaucoup plus large. Et parmi ces nations, parmi ces peuples, parmi Israël, il y aura davantage de personnes converties. Ce ne sera pas une poignée de prophètes ici et là, ni de petits groupes. Non, ce sera beaucoup plus vaste, ce qui créera une dynamique bien plus forte à mesure que nous avancerons vers le millénaire. Ce système physique sous-tendait une réalité spirituelle dont l'humanité ne disposait tout simplement pas, car Dieu était avec elle de manière générale, mais pas en elle spirituellement. C'est ce que vous et moi possédons. Ce simple changement, qui est le plus remarquable, le plus incroyable, le plus passionnant et le plus révolutionnaire de l'univers, c'est lorsque l'Esprit de Dieu entre en interaction avec notre esprit et transforme qui nous sommes. Pas de l'extérieur. Vous et moi avons exactement le même aspect que lorsque nous avons été plongés sous l'eau et que les mains ont été posées sur nous. Peut-être un peu plus âgés, un peu plus grisonnants, un peu plus ronds au niveau de la taille, mais physiquement, nous avons en quelque sorte toujours le même aspect. Spirituellement, nous sommes très différents. Et les gens le voient à travers nos actions. Vous révélez votre état spirituel par ce que vous faites. Moi aussi. C'est pourquoi nous pouvons être un exemple. C'est pourquoi nous sommes la Bible que la plupart des gens ne lisent jamais, mais qu'ils voient en nous. C'est pourquoi les conjoints de ceux qui fréquentent l'Église s'adoucissent généralement avec le temps, car ils voient cette personne grandir, évoluer, devenir un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur père ou une meilleure mère. C'est là le changement spirituel que Dieu opère en nous. Venons-en donc au point numéro 5. Le système physique enseignait des réalités spirituelles plus grandes. Encore une fois, le système physique enseignait des réalités spirituelles plus grandes. Israël ne l'a tout simplement pas vu, mais vous et moi pouvons le voir en jetant un regard en arrière, en revenant à ce que dit l'Ancien Testament. Nous pouvons percevoir ces réalités spirituelles en nous préparant dans une perspective spirituelle. Il en sera de même pour la nation d'Israël. Il en sera de même pour toutes les nations du monde. Il en sera de même dans le royaume de Dieu. Ils pourront regarder en arrière. Vous pouvez regarder en arrière. Nous pouvons enseigner ce qui s'est passé à l'époque pour montrer les réalités spirituelles et comment cela s'applique à eux, tout comme cela s'applique à nous aujourd'hui. Il s'agit d'un être qui n'a pas élaboré un plan à la va-vite. Lui et Christ disposaient de l'éternité. Ils ont mûrement réfléchi à tout cela. Ils ont prévu toutes les implications. Un bon stratège, quelqu'un qui joue aux échecs, peut envisager différentes voies, différents coûts, différentes variantes. Nous parlons de Dieu. Il voit à travers le temps, à tel point qu'il savait que tu serais assis sur la chaise où tu es assis aujourd'hui. Vous auriez pu dire non, bien sûr, mais Dieu allait vous appeler. Il savait qu'il allait appeler quelqu'un qui serait vous ou moi. C'était à nous de dire, oui, Dieu, je t'obéirai et je continuerai à le faire tout au long de notre vie. Mais c'est un être dont la vision était bien plus large, bien plus globale, si l'on peut dire, que la nôtre. Israël n'avait tout simplement pas cette capacité intérieure nécessaire à une obéissance durable. Car vous et moi, nous échouons parfois aussi, n'est-ce pas? Nous péchons. Nous avons des doutes. Il y a des moments où nous ne sommes pas aussi forts. Nous avons des faiblesses. Nous faisons des choses en nous disant, oh, je ne m'en sors pas très bien, mais Paul aussi. Rappelez-vous, il a dit que son corps physique luttait contre lui. Alors, avec l'Esprit de Dieu, et nous l'avons imaginé ce qui était essentiellement impossible à accomplir pour une nation sans lui. Mais ces institutions ont contribué à encadrer les questions spirituelles. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, nous allons donc nous rendre au chapitre 9. Chapitre 9, verset 6 sort, lorsque ces choses étaient ainsi établies, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle pour accomplir le service de Dieu, c'est-à-dire toutes les prescriptions. Mais dans le second, le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an, non sans du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les fautes du peuple. Une fois par an, le jour des expiations. Et le Saint-Esprit, en cela, indiquait que le chemin vers le Saint des Saints n'était pas encore manifesté, tant que le premier tabernacle subsistait encore. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné à tout le monde, car vous et moi, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé de cette manière, mais vous et moi, chaque fois que nous nous mettons à genoux, nous entrons dans le Saint des Saints. Nous nous présentons devant Dieu. Si quelqu'un en Israël faisait cela en dehors du jour des expiations ou le faisait le jour des expiations, sans être le grand prêtre et sans avoir accompli toutes les formalités requises, il mourrait. Ainsi, vous et moi avons la possibilité de nous présenter devant Dieu, dans le Saint des Saints, devant son trône, chaque fois que nous nous mettons à genoux, chaque fois que nous prions. Verset 9, ce qui était une figure du temps présent, pour nous, où l'on offrait à la fois des dons et des sacrifices qui ne pouvaient rendre parfait, quant à la conscience, celui qui accomplissait le service. Verset 10, ces choses ne concernaient que des aliments et des boissons, ainsi que diverses ablutions et des ordonnances charnelles qui leur étaient imposées jusqu'au temps de la réforme. Jusqu'au temps du changement, ou jusqu'à ce que Christ s'offre en sacrifice, afin que vous et moi puissions avoir accès au Père et à l'Esprit de Dieu. Ces formes physiques étaient une similitude, un type, ou une représentation concrète de ce que signifie avoir l'Esprit de Dieu et pouvoir se présenter devant lui. Passons à la page suivante, au chapitre 10. Commençons au verset 1. Chapitre 10, verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, continuons ici, en se tendant un peu, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ses sacrifices offerts chaque année sans cesse, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Il le faisait encore et encore, pour les rendre plus semblables à Dieu, pour qu'ils ressemblent davantage à ce à quoi vous et moi nous efforçons d'accéder, avec l'Esprit de Dieu. Car alors il n'aurait pas cessé d'être offert, puisque ceux qui rendaient le culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Non, ce n'est pas cela. Mais dans ces sacrifices, il y a, chaque année, un rappel des péchés. Les gens continuent de pécher et doivent donc continuer à se repentir à chaque jour des expiations, mais aussi chaque fois qu'ils offraient des sacrifices pour le péché. Verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Dieu vient de l'illustrer, n'est-ce pas? On ne peut pas enlever les péchés en tuant un animal. Non, la mise à mort de l'animal visait à montrer que des actions devaient être accomplies. Il fallait, en fin de compte, faire preuve d'obéissance pour que Dieu accorde la repentance qu'il nous a donnée, à vous et à moi. Cela représente un grand nombre d'animaux sacrifiés. Beaucoup de personnes ont accompli de nombreux actes pour que vous et moi puissions comprendre l'accomplissement, le but spirituel de ces actes, que nous enseignerons aux gens dans le royaume de Dieu. Nous l'enseignerons à ces mêmes personnes. Imaginez leurs pensées lorsqu'elles se diront « J'ai fait partie d'une nation qui n'a pas très bien agi ». On peut imaginer que la plupart de ceux qui ont échoué lors de ce premier essai s'en sortiront bien mieux la deuxième fois, lorsqu'ils ressusciteront. Surtout quand on leur dira, vos erreurs vont aider tant de gens, car ce sont vos actions qui nous ont permis de voir, d'apprendre, de nous développer et de grandir. Ainsi, lorsque nous aurons l'Esprit de Dieu, nous pourrons nous inspirer de l'exemple d'Israël, qui a connu des échecs mais aussi parfois des succès, et agir comme il se doit. Tout comme les nations environnantes, nous pourrons observer et voir ce qu'est devenue cette nation modèle dans le royaume pour agir comme il se doit. Ce n'est pas le sang des boucs ou des taureaux qui accorde le pardon. C'est Dieu, par son esprit, grâce au sacrifice du Christ, qui l'accorde. Voyez-vous comment tout cela est lié? Tel a toujours été le dessein de Dieu. Tel a toujours été le plan de Dieu, depuis Abraham, en passant par l'ancien Israël, jusqu'à l'époque du Nouveau Testament et, finalement, jusqu'au royaume de Dieu. C'est à cela que vous et moi avons la chance de prendre part. Et avec Jésus-Christ, ses leçons matérielles, ses exemples, tout ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament, une sorte de profil, si l'on veut, a pris une dimension bien plus spirituelle dans sa réalité effective. Donc, sixièmement, Christ a fait entrer les types physiques dans leur réalité spirituelle plus grande. Sixièmement encore, Christ a fait entrer les types physiques dans leur réalité spirituelle plus grande. Dieu n'a pas changé ce qu'il avait fait. Il a élargi ce qu'il avait fait. Cela s'est développé. Le système antérieur était conçu pour être une préfiguration du Christ. Il n'a pas rendu ses leçons dénuées de sens. Christ n'a pas nié tout ce que Dieu avait fait auparavant, car cela reviendrait à le modifier. Si Christ était venu dire, oui, tout ce qu'Israël a fait auparavant était faux. Tout ce que Dieu a établi était faux. Vous pouvez jeter l'Ancien Testament. Nous allons écrire un nouveau livre, et ce sera simplement ce Nouveau Testament. Vous n'avez pas besoin de l'Ancien. Et ensuite, nous serons tous baptistes. Dans bien des cas, c'est ce qu'est devenu la religion moderne. Ignorons l'Ancien Testament. Parlons simplement de Dieu. Parlons du Christ. Il ne parle même plus de Dieu. Il ne parle que du Christ. Le sacerdoce, les sacrifices, la purification, l'accès à Dieu ont été transférés vers une administration plus grande et plus durable. Ainsi, l'administration de cette alliance perpétuelle n'avait pas vraiment changé, car le but, l'accord initial, était l'obéissance et l'accomplissement d'une promesse. Abraham a même dit qu'il contemplait la cité de loin. C'est ce qu'il attendait. Il comprenait ce que la promesse deviendrait grâce à son obéissance. Vous et moi, nous contemplons la cité de loin grâce à notre obéissance. Les termes n'ont jamais changé. C'est l'administration de ces termes qui a changé. Mais le but n'a cessé de grandir, encore et encore. Nous sommes donc toujours dans l'Épître aux Hébreux. Revenons quelques chapitres en arrière, au chapitre 7. C'est un seul livre. La Bible est un seul livre. Le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien. L'Ancien est le fondement du Nouveau. C'est pourquoi il est cité si souvent. Si vous retiriez toutes les citations de l'Ancien Testament du Nouveau Testament, il ne vous resterait qu'une brochure. C'est ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Les deux s'unissent pour nous permettre de voir Dieu dans toute sa plénitude. Cela ne transforme pas Dieu en un monstre. Non, cela fait de Dieu un être bien plus grand que ce que les gens aiment lui attribuer. C'est pourquoi on voit souvent le petit enfant Jésus dans la crèche. Cela rabaisse un être qui est éternel. Hébreux, chapitre 7, verset 24. Verset 24. Mais cet homme, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce immuable. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur, Christ. Car c'est un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, Christ s'est fait chair, s'est fait homme, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. Il est redevenu un être divin lorsqu'il est ressuscité, qu'il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Car il l'a fait une fois pour toutes. Il s'est offert lui-même. C'est ce qu'a fait Christ. Un être divin qui n'avait jamais péché, qui ne s'était jamais souillé, s'est offert en sacrifice suprême, mes frères, et c'est pourquoi vous et moi avons aujourd'hui accès à Dieu le Père. C'est pourquoi nous avons accès à un Saint-Esprit qui transformera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est pourquoi Dieu peut mettre dans nos esprits à la fois ce qu'il faut faire et la volonté de le faire, ainsi que la signification ultime de ses lois, de cette obéissance, de ses jugements et de ses promesses, et la manière dont ils s'accomplissent. Christ est pour toujours notre grand prêtre suprême. Le besoin d'un sacerdoce n'a pas disparu. C'est pourquoi nous allons devenir roi et prêtre. Nous avons désormais un grand prêtre éternel. Bien sûr, nous comprenons qu'il y aura une phase où il y aura un grand prêtre physique au sein de la nation d'Israël, puis le royaume de Dieu sera établi, et nous comprenons le processus par lequel il accomplit cela. Tout comme à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Dieu accomplit ces choses par étapes. L'accomplissement ultime, c'est le millénaire, puis tout ce qui se trouve au-delà. Il y a donc des étapes dans le Nouveau Testament, tout comme il y en a dans l'Ancien. Christ est le grand prêtre parfait qui s'est offert lui-même en sacrifice parfait. Revenons au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Nous faisons ici quelques allers-retours. Il y a beaucoup à dire à ce sujet dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 9, verset 11. Verset 11. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette construction, en regardant autour de nous le temple de l'époque, ni par le sang de bouc et de veau, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Il était, si l'on peut dire, le dernier grand prêtre qui devait accomplir cela pour que nous puissions avoir accès à Dieu le Père. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse, répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie et purifie le corps, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre ma, notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Christ nous a donné accès. Verset 15. Et c'est pour cette raison qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le nouveau contrat. Lorsque les paramètres se sont élargis, lorsque les détails et l'administration ont changé, car nous avons désormais affaire à des êtres humains convertis, voilà ce qu'est l'Église. Ce n'est pas une masse d'individus, une nation, comptant en son sein quelques personnes converties. C'est désormais une organisation composée d'individus convertis. Cela fait une énorme différence dans la manière dont on travaille avec les gens. Un esprit converti est très différent d'un esprit non converti. Médiateur du Nouveau Testament, verset 15. Continuons, afin que, par sa mort, pour le rachat des transgressions commises sous le Premier Testament, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse d'un héritage éternel. L'appartenance à la famille de Dieu. Le dessein de Dieu a toujours été de passer d'une famille, celle d'Adam et d'Abraham, à une seule famille, la famille de Dieu. Ce n'était pas une question de sang. Ce n'était pas une question de sacrifice. Ce qui lui tenait à cœur, c'était l'obéissance. Non pas parce qu'il était une sorte de grand ogre trônant dans les cieux et les nuages et disant, je veux de l'obéissance. Non, ce n'était pas ce qu'il faisait. Il savait que c'était ainsi que les gens étaient heureux, épanouis, car c'est lui qui nous a créés. Il connaissait la manière dont nous devions mener notre vie, et il savait que Satan nous inciterait à faire des choses qui ne nous rendraient pas heureux, ne nous apporteraient pas l'épanouissement, et ne nous permettraient pas de connaître l'abondance et la joie que Dieu avait prévues pour nous tous. Par Christ, Dieu a commencé à graver sa loi dans l'esprit d'un nombre bien plus grand encore de personnes, soit finalement 144 000 qui remplissaient les conditions pour faire partie de cette première vague. Numéro 7. Dernier point ici. Le royaume unira le gouvernement extérieur à la conversion intérieure. Répétez-le. Numéro 7. Le royaume unira le gouvernement extérieur à la conversion intérieure. C'est cela qui change dans le royaume de Dieu. Pas l'alliance, pas le but, pas les conditions. Rappelez-vous que l'alliance, dans un certain sens, correspond à certains détails du contrat. Les éléments fondamentaux originels du contrat sont l'obéissance à Dieu, qui vous apporte des bénédictions et, en fin de compte, l'accès à la famille de Dieu. La manière d'y parvenir correspond à l'ensemble des détails du contrat de l'alliance. Si je souhaite créer une entreprise, que je la constitue en société, que je rédige un contrat, que j'embauche un salarié ou que vous ayez une fiche de poste, celle-ci explique en détail toutes les conditions pour percevoir votre salaire. Voici ce que vous devez faire. Voici ce qui doit être accompli, etc. Mais au final, il s'agit d'un salaire. Vous acceptez de m'embaucher, j'accepte de faire tout ce que j'ai engagé à faire, et vous me verserez un salaire. Dieu dit, en fin de compte, excusez l'analogie, je vais t'embaucher, voici tout ce que tu dois faire, et ton salaire, ton héritage, ta bénédiction ultime, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Selon ce à quoi ressemble cette fiche de poste, que tu sois plombier, mécanicien, programmeur, ou n'importe quel métier intermédiaire, comptable, peu importe, les détails de ce contrat seront très différents. Ce que vous faites au quotidien pour obtenir ce salaire sera différent selon votre description de poste. Lorsque Dieu travaille avec différents types de personnes, la description de poste varie, mais l'objectif reste le même, je vais t'embaucher, et si je le fais, tu remplis toutes les conditions, je te verserai ton salaire. Cela ne pourrait pas se produire si l'on n'avait pas une vision d'ensemble, du moins à grande échelle. Car nous ne sommes encore qu'un grain de moutarde, nous sommes encore minuscules, nous formons un petit troupeau. Ainsi, même lorsque Dieu donne son esprit, il œuvre avec un petit nombre de personnes. Passons à Ésaïe 2. Le chapitre 2 d'Ésaïe, alors que nous arrivons à la fin. Ésaïe, chapitre 2, verset 1. Ésaïe 2, 1. La parole qui fut adressée à Ésaïe, fils d'Amoz, concernant Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fermée au sommet des montagnes, dans les derniers jours, et s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations afflueront vers elle. Verset 3. Et de nombreux peuples iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 4. Il jugera parmi les nations et réprimandera de nombreux peuples. Et ils forgeront leurs épées en soc de charrue, et leurs lances en serpe. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Les choses changent. Le gouvernement de Dieu s'étend désormais au monde entier. Et en son sein, les relations entre ces peuples changent. Passons à Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais changé. C'est la manière dont il traitait les groupes qui a changé. Mais même la manière dont il traitait Abraham, ou Israël, ou d'autres nations, ou l'Église du Nouveau Testament, visait en fin de compte à mettre toutes les pièces en place, afin qu'il puisse rassembler tous ces éléments et les réunir en un tout dans le royaume de Dieu. Encore une fois, c'est pourquoi ce point est important. Dieu unifie le gouvernement des nations, du monde entier, avec la conversion des individus. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Car je vous retirerai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre propre pays. Je répandrai sur vous de l'eau pure, et vous serez purifiés, vous recevrez l'Esprit de Dieu, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous purifierai. On pourrait dire qu'il s'agit d'Israël, mais cela s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations. Chapitre 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez mes ordonnances et que vous les mettiez en pratique. Et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Tout comme Dieu l'a toujours voulu, que ce soit pour Abraham, pour Israël ou pour l'Église du Nouveau Testament. Il voulait que cela serve d'exemple, car en fin de compte, il s'agirait d'une nation et d'un peuple converti. Dans le royaume de Dieu, les deux sont réunis. Au départ, l'accent était mis sur Israël, mais en fin de compte, il est mis sur l'humanité tout entière. Rappelez-vous, Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a ni hébreu, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Son but est d'élargir la famille de Dieu. Tel a toujours été le dessein. Telle a toujours été sa volonté. Au lieu d'un gouvernement fonctionnant indépendamment de la conversion, ces deux éléments fusionnent et deviennent des personnes converties œuvrant sous l'autorité d'un gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement de Dieu au sein de l'Église est si important. C'est un petit exemple de ce qui s'étendra à l'ensemble du monde. Nous exerçons le gouvernement de Dieu dans son Église de la même manière. Frères et sœurs, chaque étape des contrats de Dieu, de ses alliances, de ses conditions, de ses paramètres, de ses jugements, de ses statuts, quel que soit le terme que vous souhaitiez employer, a toujours eu pour but d'aboutir à un seul résultat, que la loi de Dieu, son gouvernement et son Saint-Esprit s'étendent à tous les êtres humains qui ont jamais vécu. C'est une réalité qui dépasse de loin une simple période de temps. Vous voyez donc que Dieu n'a jamais changé. Son administration de son alliance a peut-être changé, mais sa volonté, son dessein, son objectif, ses exigences d'obéissance, tout cela n'a jamais changé. Il n'a pas abandonné ce dessein. Il l'a progressivement élargi pour qu'il devienne quelque chose de mondial, le gouvernement, la promesse, la nation, les lois, l'enseignement concret, Christ, la conversion intérieure, puis, en fin de compte, le gouvernement mondial qui relie tout cela entre eux. Les formes sous lesquelles cela se présentait semblaient changer parce que cela avançait vers la destination. C'est donc une affaire sérieuse pour vous et moi, quel que soit le temps qu'il nous reste. Nous devons vivre sous le gouvernement de Dieu. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de nous transformer, afin d'incarner l'exemple de ce à quoi ressemblera le monde entier. Nous ne pouvons pas laisser des futilités nous détourner de cette voie. Nous devons changer, grandir, nous développer et mettre à profit le temps qui nous reste, car c'est là la promesse que Dieu nous a faite si nous lui obéissons. Or, l'obéissance exige que vous et moi changions. Dieu n'a donc jamais changé son dessein. Il œuvre toujours en vue de ce même dessein. Il a commencé avec Abraham, voire, pourrait-on dire, avec Adam. Notre responsabilité reste de rester fidèle à ce dessein, de nous soumettre pleinement à son gouvernement, afin qu'il puisse accomplir en vous et en moi cette œuvre spirituelle plus grande qu'il a commencée lorsque vous avez été baptisés. Cela nous permettra, à vous et à moi, de régner dans le royaume de Dieu lorsque ce gouvernement s'étendra sur le monde entier et qu'il étendra cette alliance et cette promesse à toute l'humanité. Puissions-nous tous, chacun d'entre vous, moi et nous tous à travers le monde, être là pour y prendre part. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez de cette journée et du beau temps dont nous pouvons profiter maintenant que l'été est là. Notre équipe est au complet depuis le retour du camp, et tout le monde est présent. Certains membres de mes services sont ravis de retrouver le soutien de leurs collègues qui leur avaient manqué pendant le camp. D'après tous les témoignages, ce fut un véritable succès. Je suis sûr que nous en saurons davantage à ce sujet dans les semaines à venir, notamment sur certains détails. Mais il s'agissait vraiment d'un programme destiné à aider les enfants à percevoir Dieu plus clairement dans leur vie. Et pour vous et moi, notre objectif est exactement le même dans notre vie chrétienne quotidienne. Que l'on ait 13, 15, 17, 25 ou 55 ans, notre objectif, chaque jour, et de voir comment Dieu intervient dans notre vie de tous les jours. Vous auriez pu vivre il y a 2000 ans ou 5000 ans, et en fin de compte, c'est ce que Dieu cherche à faire avec vous et moi. Comment est-il présent dans notre vie quotidienne? C'est un être qui existe depuis des milliers d'années. Pensez personnellement aux 200 dernières années, si vous avez vécu aussi longtemps, tant mieux pour vous. Si vous avez lu quelques livres d'histoire, c'est probablement plus probable. Mais qu'est-ce qui a changé au cours des 2000 dernières années? L'innovation, la société, les frontières, les pays, les nations. Qu'est-ce qui a changé au cours des 2000 dernières années? J'imagine que si vous preniez quelqu'un d'il y a 100 ans et que vous le transposiez dans le présent, il serait désorienté. Tout comme si vous preniez quelqu'un d'aujourd'hui et que vous le renvoyiez 200 ans en arrière, il mourrait de faim. Nous, en tant que peuple, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à changer avec le temps. Les sociétés, encore une fois, les nations, les peuples. Mais nous servons un être qui affirme clairement à plusieurs reprises qu'il ne change pas. Dieu et Christ ne changent pas. « Je ne change pas, dit-il, si je cite la version de la Bible du roi Jacques. Mais quand on parcourt la Bible, il semble que ce que Dieu fait avec l'homme, cela change. Comment concilier ces deux choses? Il est le même être depuis toujours, depuis l'éternité. Mais clairement, si l'on commence par la Genèse et que l'on parcourt la Bible jusqu'à l'Apocalypse, la manière dont Dieu a agi avec l'homme semble avoir changé. Nous savons que son caractère ne change pas. Sa loi ne change pas. Son dessein, en fin de compte, ne change pas. Mais si nous remontons à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament, la manière dont il interagissait avec les êtres humains semble différente de celle observée dans le Nouveau Testament. Il semble que le sacerdoce ait changé depuis cette époque. Les sacrifices sont différents. Les symboles, les formes de culte. Pourquoi un être qui affirme ne pas changer semble-t-il avoir radicalement modifié sa manière d'agir avec les gens? Cela ressemble à une contradiction, n'est-ce pas? Pourquoi cette administration a-t-elle changé? Elle, l'ancienne alliance, a-t-elle échoué? Cette image de l'Ancien Testament a-t-elle finalement échoué? Alors Dieu dit, « Bon, je dois refaire ce processus. Je dois élaborer un nouveau plan. Vous savez quoi? Je n'ai pas eu la clairvoyance de prévoir ce que ces gens feraient. Alors, vous savez quoi? Faisons table rase du passé et recommençons à zéro. Est-ce cela qu'il a fait? A-t-il abandonné ce qu'il avait choisi de faire avec Israël? Car quand on regarde en arrière, c'est ce qu'il semble. Il y a eu une époque avec Abraham, puis Israël, et ensuite cela n'a pas fonctionné. Tous ces problèmes étaient-ils dus à un échec dans la manière dont Dieu a agi avec l'homme? Dieu a-t-il échoué? Eh bien, bien sûr, vous allez répondre, non, Dieu n'a pas échoué. C'est l'homme qui a échoué. Mais Dieu est un être qui se situe au-delà de l'espace et du temps, qui a une vision d'ensemble bien plus large que celle dont ne pourraient jamais disposer les penseurs humains les plus éminents. Dieu aurait-il pu être en train d'élaborer? Bien sûr que oui, je tiens à le préciser. Mais je vais poser la question avec un brin d'ironie, Dieu aurait-il pu élaborer, au cours des 6000 dernières années, un plan plus grand encore, qui aboutirait finalement à l'accomplissement de la manière dont il agira avec les humains pour toujours? Je pourrais facilement dire que ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est l'élargissement de la manière dont Dieu agit auprès des hommes, et non la correction. La nation physique a préparé l'accomplissement spirituel. Les éléments, les sacrifices et les détails temporaires deviennent quelque chose de permanent. Et tandis qu'il préparait et agissait auprès de la nation, cela symbolisait son action auprès des êtres à travers l'univers. Dieu ne change pas de direction. Non, c'est un être, rappelez-vous, il ne change pas. Ainsi, si Dieu se dirige vers l'ouest, il continue à se diriger vers l'ouest. Mais parfois, son dessein supérieur peut nous sembler différent, à vous et à moi. Rappelez-vous, nos pensées ne sont pas ses pensées. Il voit les choses à un autre niveau. Il avance peut-être avec le même dessein, mais au fil du temps, qui n'est qu'un instant pour lui, rappelez-vous, 1000 ans ne sont qu'un jour pour Dieu, ces milliers d'années nous paraissent différentes, alors que pour Dieu, ce ne sont que des étapes d'un plan plus vaste. Retraçons donc aujourd'hui ce qui a changé dans l'administration de son alliance, tout en démontrant que le dessein de Dieu n'a pas changé d'un iota. Nous commencerons par quelques éléments simples. Nous progresserons progressivement, en remontant depuis l'époque d'Abraham jusqu'au royaume de Dieu. C'est un plan en place depuis des siècles, environ 6000 ans, et chaque étape a préparé la suivante pour aboutir à ce qui sera l'accomplissement ultime auquel vous et moi, en particulier vous et moi à la fin des temps, nous préparons. Commençons simplement, très simplement, par les bases mêmes de ce sujet, puis nous ouvrirons la Bible, passerons en revue certains récits bibliques et progresserons vers ce que nous recherchons. Je pourrais donc vous poser une question. Tout d'abord, je vais vous donner le point numéro 1, car sinon vous prendriez des notes et devriez ensuite revenir en arrière pour les corriger. Donc, point numéro 1, le dessein de Dieu a été établi avant toute alliance. Le dessein de Dieu a été établi avant toute alliance. Le mot alliance, c'est un terme biblique. Il y a toujours ces mots qui sont des termes bibliques. La lascivité, je l'ai déjà dit, mais c'était la première note que j'ai écrite sur une feuille blanche lors de mon tout premier sabbat. Tout ce que j'avais, c'était, je crois que c'était le 19 février, dans le coin en haut, parce que j'y avais inscrit la date, puis dans mes notes j'ai écrit, qu'est-ce que la lascivité? Mon tout premier sabbat. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais c'était un mot sophistiqué, et je voulais le chercher dans le dictionnaire. Je l'ai fait, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas aussi sophistiqué que je le pensais, et qu'il ne signifiait pas la chose positive que j'avais en quelque sorte imaginée. Je suis sûr que vous savez ce que ce mot signifie. Mais les mots bibliques, comme alliance. Eh bien, si vous faites des opérations bancaires, vous avez probablement déjà entendu ce terme. Si vous avez un prêt, en particulier un prêt commercial, il y aura des clauses restrictives. Qu'est-ce qu'une alliance exactement? Eh bien, si l'on s'en tient à la définition simple et au sens biblique, mais c'est la même chose, une alliance est un accord formel et contraignant entre deux parties, comme un contrat. C'est le même concept. Il s'agit d'établir une relation avec des conditions, des promesses et des obligations. Je vais le répéter. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord formel et contraignant entre deux parties, établissant une relation avec des conditions, des promesses et des obligations. Dans les Écritures, Dieu a toujours établi ses alliances selon le même principe. Il fixe des conditions, et l'homme répond en disant, j'accepte ces conditions. Pensez à l'ancien Israël, lorsque Moïse a parlé de la loi et de tout le reste, puis au mont Horeb, avec tout ce bruit, ces cris, ces trompettes et cette puissance. Et le peuple a dit, oui, nous obéirons, avant de ne pas le faire. Mais l'accord, le contrat, si vous voulez, d'une certaine manière, quand vous entendez le mot alliance, pensez à un contrat. C'est une interprétation moderne très simple de ce que cela représente aujourd'hui. À tel point que nous allons signer un contrat, que vous allez signer un contrat, et que celui-ci contient des engagements que vous devez respecter. Mais contrat est peut-être le terme le plus simple. On pourrait donc se demander, quel est le contrat de l'Ancien Testament? Quel est le contrat du Nouveau Testament? Lorsque nous nous sommes immergés dans les eaux baptismales et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons conclu un contrat avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Les alliances ou contrats bibliques comprennent généralement des promesses, des conditions, un signe ou un sceau. Pensez à l'arc-en-ciel, à la circoncision, au sabbat. Mais ce n'est pas le but de Dieu en soi d'en faire l'élément clé. Il s'agit simplement d'un cadre que Dieu utilise à un moment donné, en fonction du peuple avec lequel il œuvre à ce moment-là. Si je conclus un accord pour tondre la pelouse de quelqu'un, je rédige un contrat. Il y a deux parties. Si j'ai 15 ans ou 7 ans, j'aurai peut-être ce contrat griffonné à la main. Et si l'on veut vraiment officialiser les choses, on dira, je veux que tu signes ce contrat, car je vais tondre ta pelouse. Eh bien, ce contrat ne va pas entrer dans les détails concernant l'entretien d'une voiture, car cela n'a aucun rapport avec cet accord entre ces deux personnes. Tout comme Dieu a établi une alliance ou un contrat avec l'ancien Israël, nous allons d'abord nous intéresser à Abraham. Il a établi un contrat qui était adapté à ses circonstances. Et pour vous et moi, il nous arrive parfois de regarder cela et de penser, on dirait que son contrat a changé. À la fin de notre réflexion d'aujourd'hui, vous verrez que l'accord sous-jacent à ce contrat plus large, on pourrait appeler cela les détails fondamentaux ou les alliances de base contenues dans ce contrat, n'a pas changé. Non. Ce sont simplement certaines des conditions initiales exagérées qui ont changé. Nous le verrons en entrant davantage dans les détails. Dieu avait toujours prévu de modifier la nature de ses alliances. C'est pourquoi il y en avait plusieurs. Car comme les personnes sont différentes, les circonstances requises le sont aussi. Si deux enfants de 6 ans concluent un accord pour jouer à chat ensemble, leurs circonstances et les détails de leur accord seront très différents de ceux de 2 trentenaires concluant un accord pour jouer à chat ensemble. Deux types de personnes, avec des mentalités et des expériences différentes, jouant au même jeu, aboutiraient à des conditions d'accord très différentes, même si, au fond, il s'agit toujours d'un jeu dit de chat. Restez simple. N'essayez pas de compliquer les choses à outrance, car c'est ce que fait la Bible d'une certaine manière quand on y réfléchit, parce qu'on se dit, oh, mais il y a ceci, et il y a les sacrifices, puis parfois les animaux, et ensuite l'offrande de paix. Non, non, non. Simplifiez. Qu'est-ce que Dieu essayait de faire? Quel était le jeu ou l'objectif sous-jacent à tous ces termes qui venaient s'y superposer? Allons au chapitre 1 de la Genèse. Le chapitre 1 de la Genèse, dès le début de la Bible. Je dois toujours faire attention, car ma Bible a besoin d'être reliée à nouveau, alors je l'ouvre doucement. Je ne tourne pas beaucoup les pages. Mais la Genèse est fragile. Il faut la recréer dans ma Bible. C'était plus drôle que vous ne le pensiez, mais réfléchissez-y un instant. Mais je vais recréer la Genèse. Verset 26. Nous commencerons un peu plus loin. Verset 26 du récit de la Genèse. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Rappelez-vous, Dieu avait un dessein qu'il avait établi avant toute alliance. Nous sommes dans Genèse 1. C'est tout au début. La recréation a eu lieu. Voici la terre qui revient. Dieu dit à nouveau au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. L'homme a tout gâché, et ce depuis longtemps, surtout à l'ère moderne. Il suffit de regarder la terre qui nous entoure, la pollution, les substances toxiques, les plastiques, etc. Mais le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Tel était le dessein de Dieu avant que quoi que ce soit n'arrive, avant même qu'il n'y ait d'êtres humains pour prendre pleinement soin de tout. Il a créé Adam et Ève, puis, en fin de compte, tous les hommes qui leur ont succédé, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, et jusqu'à vous et moi aujourd'hui, à son image, à sa ressemblance, dans le but que nous exercions la domination sur la terre, que nous la gouvernions. C'est cela, la domination, c'est simplement gouverner, exercer l'autorité sur la terre. Tout chrétien, dès lors qu'il a suivi la voie de Dieu ou qu'il connaît la Bible de quelque manière que ce soit, reconnaîtra immédiatement cette idée. Ainsi, Dieu a dit dans Genèse 1, « Je veux que l'homme règne sur la terre ». Cela vous semble-t-il familier? Comme lorsque nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans, une fois que l'on arrive à l'Apocalypse, à l'autre extrémité de la Bible, Dieu voulait que nous soyons à son image, que nous développions son caractère, que nous entrions dans sa famille. Ce sont là les fondements même de ce que signifie être chrétien. Évidemment, le monde ne comprend pas certaines de ces choses fondamentales, mais vous et moi, oui. Nous avons dû apprendre à gouverner le monde sous l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, ses instructions, son gouvernement existait bien avant que tous ne se rassemblent autour du mont Sinaï. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il avait prévu pour Adam et Ève, qu'ils partent, se multiplient, soient féconds et prennent possession du monde. Ce qu'il voulait, c'était qu'ils aient l'Esprit de Dieu et qu'ils agissent selon ce qu'il avait prévu depuis la nuit des temps, au moment où il l'avait décidé, ce qui est une question ou une discussion amusante à avoir avec Dieu, même si elle repose sur la notion de temps. Mais Dieu, quand as-tu décidé que Satan allait se rebeller et que tu devrais, en fait, changer le scénario? Avais-tu conclu une alliance avec les anges? On pourrait s'écarter du sujet, et ce n'est que pure spéculation, mais c'est fascinant quand on pense à un être qui est destiné à l'éternité ou qui a existé. Dieu avait un dessein, mes frères, et ce dessein existait en premier lieu. Et chaque alliance, chaque contrat qui a suivi ce récit avait pour but d'aider à ratifier, à faciliter ou à établir les conditions nécessaires à la réalisation de ce dessein. Passons au Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à l'adoption filiale, ou à la filiation, par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 9. En nous faisant connaître le mystère de sa volonté, nous comprenons quelle est la volonté ultime de Dieu, nous venons de la lire, selon le bon plaisir qu'il s'était proposé en lui-même, afin que, dans la dispensation de la plénitude ou de l'accomplissement des temps. Ainsi, dans la perspective de l'accomplissement des temps, c'est-à-dire dans la vision d'ensemble, l'aboutissement final, la partie toute dernière, afin de rassembler en un tout toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. En fin de compte, c'est ce que Dieu veut accomplir, à la fin de son dessein. Verset 11. En qui nous avons aussi obtenu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Frères et sœurs, nous avons été appelés dans ce but. Pour accomplir tout ce qui est décrit ici. Dieu nous connaissait, comme le montrent d'autres versets, avant la fondation du monde. Il a imaginé un temps où vous et moi serions assis aux places où nous nous sommes assis aujourd'hui, alors que nous nous préparons à faire partie de cette famille de Dieu pour accomplir la dispensation de la plénitude des temps. Dieu n'a pas réagi aux hommes. C'est lui qui a conçu ce dessein. C'est lui qui a créé les hommes, mais chaque étape du chemin a nécessité des administrations différentes. Vous pouvez consulter un verset du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont moins souvent mutés, car ils restent davantage ancrés dans leur région d'origine. Autrefois, en revanche, ils étaient mutés tous les 7 ans environ. Et lorsqu'ils étaient mutés, ils continuaient bien sûr à enseigner la vérité, mais ils avaient, comme la Bible l'appelle parfois, des différences d'administration. Ils agissaient donc de manière légèrement différente selon les circonstances, le pasteur, la façon dont il avait été formé et le type de formation qu'il avait reçu. Ils pouvaient avoir des approches différentes. Prenons l'exemple de deux personnes dirigeant un service dans une entreprise. Si un responsable est promu et qu'une autre personne vient prendre la relève, celle-ci peut adopter une approche différente, ce qui constitue une différence d'administration. Ce même responsable pourrait être promu, disons, à un poste de direction supérieur et s'entourer d'une équipe différente. Il gérera alors les choses différemment, car l'équipe qui l'entoure a changé. Il en va de même pour Dieu. Dieu adapte sa manière d'administrer en fonction de ceux qui l'entourent. Si nous pouvons comprendre cela, bien sûr, Dieu le peut aussi. Dieu a commencé à agir ainsi parce qu'il poursuit ce dessein. Et puis il a commencé par ce qu'on pourrait appeler la première alliance formelle. Nous ne l'appelons pas ainsi, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. On parle généralement de l'alliance de l'Ancien Testament et de l'alliance du Nouveau Testament. Mais rappelez-vous qu'une alliance n'est qu'un contrat. Il y a donc eu des alliances, si je peux le dire entre guillemets, avant cela. Il y a eu des alliances ou des contrats conclus avant cela. Deuxième point. Je vais vous dévoiler la surprise avant que nous examinions le verset et que nous retournions à la Genèse. Numéro 2, l'alliance d'Abraham. Vous pourriez dire contrat si vous préférez écrire ce mot. Ces deux termes sont presque interchangeables. L'alliance d'Abraham dépassait le cadre d'un seul homme ou d'une seule nation, même si, à l'époque, elle semblait probablement ne concerner qu'Abraham et Dieu. Donc, ce deuxième point, je le répète, l'alliance d'Abraham dépassait le cadre d'un seul homme ou d'une seule nation. Revenons cette fois-ci au chapitre 12 de la Genèse. Prenons un peu de temps sur la Genèse, car il est important que nous examinions le tout début. Il y a une feuille volante juste là, et c'est le chapitre 12. Avant d'aborder l'alliance du Nouveau Testament, tout ce qu'elle signifie et toutes ses implications spirituelles, il est important que nous examinions d'abord l'Ancien Testament, car c'est le fondement. Il est important de voir que le dessein de Dieu n'a jamais changé. Et nous allons bien ancrer cela dans nos esprits car, en tant que chrétien, surtout si vous venez d'être appelé et que vous sortez d'une église protestante, quelle qu'elle soit, baptiste, catholique, peu importe, l'Ancien Testament est un livre très lointain pour vous, car il ne semble pas s'appliquer à vous, n'est-ce pas? Vous verrez souvent, dans les chambres d'hôtel, des Bibles, je pense notamment à la Bible de Gédéon et souvent à d'autres, qui ne contiennent que le Nouveau Testament, ou qui sont des éditions réduites. On peut tout simplement acheter le Nouveau Testament. Imaginez ce que Dieu en pense, juste comme cela, en passant. L'homme a décidé. Vous savez quoi? Ce livre tout entier est la parole inspirée de Dieu, le bibelot, mais j'ai décidé que, vous savez quoi? Seul, je ne sais pas, environ un quart à un tiers de celui-ci est applicable. C'est une démarche audacieuse de la part de l'homme, mais c'est ce qu'il a fait. L'Ancien Testament est donc essentiel. Il est important de comprendre comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui en regardant d'où nous venons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit Salomon. Nous sommes donc dans la Genèse. Nous allons commencer au verset 1 du chapitre 12. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham ou Abraham, comme on l'appellera par la suite, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu est donc en train de mettre quelque chose en place. Il fixe les conditions, d'accord? Si vous signez un accord avec quelqu'un, c'est que vous en attendez quelque chose en retour. Si je me rends chez un concessionnaire automobile et que j'appose ma signature au bas d'un document, j'obtiens la voiture en échange. Cela fait partie de la négociation. Et en réalité, ce que Dieu fait ici, c'est négocier avec Abraham. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ne veux pas que cela semble banal, mais Dieu expose ici tous les avantages de ce qui est sur le point d'arriver. Tout comme lorsque l'on essaie de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose, on ne commence pas par les aspects négatifs. On ne commence pas par les contraintes. Dieu commence par les bénédictions. Verset 7. Et le Seigneur apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et là, il bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Bon, voilà le contexte. Mais Dieu a commencé par dire, tu sais quoi? Abraham, voici tout ce que tu peux faire, voici tout ce que tu recevras, mais la première étape, il y a là un petit peu d'obéissance, n'est-ce pas? Et une obéissance que l'on devine presque dès le verset 1, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers un lieu dont je ne t'ai même pas encore parlé. Lève-toi et pars, tout simplement. Mais s'il était prêt à obéir à Dieu, tout le reste de cet accord serait en place. Passons au chapitre 22 de la Genèse. Tournez quelques pages jusqu'au chapitre 22. Tout a commencé par lui, par son obéissance. Et tous les contrats avec Dieu commencent en réalité tout simplement par l'obéissance. Lorsque vous avez été appelé et que vous avez décidé, tu sais quoi? Je dois obéir à Dieu. Je dois renoncer au sandwich, au jambon ou je dois respecter le sabbat, ou quel que soit l'aspect concret qui se manifeste lorsque vous êtes appelé, je ne peux pas aller au culte du dimanche. Oh là là, regardez, la Pentecôte ou la Pâque, où je dois observer la fête, quoi que ce soit, je ne devrais pas fumer, cela a commencé par une sorte d'obéissance concrète, généralement, à ce que vous apprenez. Et c'est la même chose avec Abraham. On ne nous promet pas simplement d'être une grande nation, ou plutôt, nous promettons vraiment d'être une grande nation. Genèse 22, verset 15. Et l'ange de l'Éternel appela Abraham qui avait été rebaptisé à ce moment-là, du ciel pour la deuxième fois, et il dit, par moi-même, j'ai juré, dit l'Éternel. Dieu peut donc jurer par lui-même. Eh bien, vous et moi, nous ne le pouvons pas. Parce que tu as fait cela, tout ce qui avait été mis en place, il a levé le couteau pour tuer son fils, Isaac, son fils unique, confiant que Dieu le ressusciterait. Il savait qu'il y avait une promesse. Nous venons de la lire au chapitre 12. On ne peut pas faire une grande nation à partir d'un enfant mort. Abraham a donc agi par foi. Il a donc levé ce couteau. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et tu posséderas la porte de tes ennemis. Et en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. Tu as rempli ta part du contrat, et Dieu est un être qui affirme ne pas pouvoir mentir. Il doit donc remplir sa part de ce même contrat. Avec un homme, pourrait-on dire, un seul homme, mais en fin de compte, la promesse de quelque chose de bien plus grand. Dieu s'est adressé à Abraham, et Christ, dans ce cas précis, a dit, je vais conclure cette alliance avec toi. Si tu m'obéis, je ferai de toi une grande nation. Les nations de la terre seront bénies. Puis, On est passé d'un homme, d'une famille, d'un ensemble d'alliances, à Dieu disant, je vais faire de toi une grande nation. Ce n'est pas un changement. C'est simplement Dieu qui visualise où cela va mener. Dans ce récit, il n'a pas dit à Abraham, je vais faire de toi une nation éternelle. Cela viendra plus tard. Je vais faire de toi une grande nation. Et Israël est assurément devenu cela. Peu importe à quoi ressemble Israël aujourd'hui, même s'il ne sait pas qui il est. Nous sommes toujours, les États-Unis, le Canada, la France, tous les pays, l'Australie, je pourrais tous les citer de grandes nations. Elles commettent beaucoup de mauvaises actions. Sur le plan moral, elles sont corrompues, mais cela ne change rien au fait qu'elles sont des grandes nations, puissantes à travers le monde. Ainsi, la promesse de Dieu s'est étendue, passant de la promesse faite à un seul homme, Abraham, à une bénédiction mondiale, car toutes les nations seront bénies par l'obéissance d'Abraham. Passons au chapitre 3 de l'épître aux Galates. Le chapitre 3 de l'épître aux Galates. Le sermon d'aujourd'hui est un peu différent. Nous n'allons pas repartir avec l'appel à l'action du genre allez faire ceci, faites cela. Non, je veux que vous repartiez aujourd'hui en pensant, je comprends ce que Dieu a accompli depuis 6 000 ans. Frères et sœurs, cela devrait renforcer votre foi. Et la foi est presque aussi importante, voire bien plus importante, que ce que vous devez aller faire une fois le message terminé. Ce que vous devez faire, c'est réfléchir et méditer sur un être capable de planifier quelque chose pendant 6 000 ans, d'en voir l'issue, puis de prendre les mesures nécessaires, de modifier les termes de l'accord, d'ajuster les détails à mettre en œuvre pour garantir que le but ultime, la volonté de Dieu, soit finalement accompli. Galates 3, verset 26. Galates, chapitre 3, verset 26. Je vais vous laisser trouver ce passage, et je vais prendre un verre. Verset 26, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Essayez de lui ressembler davantage. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Dieu ne nous voit pas comme des personnes noires, blanches ou jaunes, ni comme des hommes ou des femmes, ni comme des personnes grandes ou petites, ni selon aucun autre critère physique propre aux êtres humains. C'est pourquoi l'Église de Dieu est un exemple extraordinaire, que vous alliez à l'Église de Dieu, dans une congrégation, à un service du sabbat ou sur un site de fête en Afrique du Sud, et vous y trouverez le même esprit, la même attitude, la même ferveur, la même absence de discrimination raciale. Qu'il s'agisse de l'Australie, du Pérou, du Royaume-Uni, du Canada ou de n'importe quel autre endroit du monde, c'est la même chose, car il ne voit pas ses caractéristiques physiques. Verset 29. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Peu importe que vous descendiez de Cham ou de Sem. Non, non. Dieu dit, non, je me moque de votre ascendance physique. Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, lorsque vous obéissez à Dieu, il dit, non, non, vous êtes de la descendance d'Abraham, car en fin de compte, nous sommes l'Israël spirituel à ce moment-là. Et nous verrons qu'il n'y a plus à ce sujet au fur et à mesure que nous avancerons. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas rejeté les promesses faites à Abraham. Il ne s'agissait pas d'un revirement du genre, peu importe ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Oubliez le fait que j'ai fait ces choses avec Abraham, que nous allions devenir une grande nation et qu'ils ont en quelque sorte échoué. Dieu dit, non, 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 non. J'avais prévu tout cela depuis le début. Je sais comment fonctionnent les êtres humains. Je vous ai créé. J'ai très vite compris où cela pouvait mener. J'étais hors de l'espace et du temps, et je pouvais observer ce qui se passait et comprendre que j'avais besoin d'un plan plus grand qui permette à l'humanité de traverser le processus qu'elle devait traverser pour que vous puissiez devenir Dieu. Je pourrais devenir Dieu. Nous avons un être bien plus grand que vous et moi. C'est lui que nous servons. Christ a permis que le dessein spirituel devienne plus clair, afin que nous puissions voir davantage sur le plan spirituel que sur le plan physique. Car c'est ainsi que cela a commencé. C'était très physique. Ainsi, ce qui a commencé par une seule famille, mes frères, voilà ce qui est extraordinaire chez Dieu. À quel point cela ne change-t-il pas? Ce qui a commencé par une seule famille devient finalement une seule famille. Ce qui a commencé par une seule famille avec Abraham devient finalement une seule famille avec Dieu. Faire partie de la famille de Dieu fait de nous une seule famille. C'est pourquoi peu importe que vous soyez un homme, une femme, grec, juif, noir, blanc, jaune, ou quoi que ce soit d'autre. Tel est son objectif. Au Sinaï, les descendants d'Abraham ont été constitués en nation. Cette nation de l'Alliance constituait une deuxième étape pour parvenir à cette famille spirituelle. Troisième point. Au Sinaï, Dieu a élargi son Alliance pour en faire un pacte avec une nation tout entière. Au Sinaï, Dieu a élargi son alliance pour en faire un pacte avec une nation tout entière. Dieu avait promis cela à Abraham. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait eu autant de descendants que le sable de la mer. Il a dit, je leur donnerai une terre. Je les ferai prospérer. Tu auras des descendants. Ils auront un lieu où vivre. Telles étaient toutes les promesses faites à Abraham. Bien sûr, Dieu tient toujours ses promesses, à condition que nous respections notre part du contrat. Comme dans tout contrat, si l'une des parties rompt le contrat, celui-ci est rompu. Cela a des conséquences, tout comme cela en a pour Dieu. Et Dieu est plus miséricordieux que n'importe quel contrat que nous signons aujourd'hui. Vous avez probablement déjà conclu un accord. Il n'est peut-être pas écrit ni signé, mais vous avez un accord avec quelqu'un, et l'une des deux parties commet une erreur. Vous vous réunissez alors pour discuter de la manière de remédier à cette erreur. Dans le cas de Dieu, certaines de ces réparations ont pris la forme de l'esclavage, de la captivité d'Israël, de leurs cris de détresse et de la prise de conscience de ce qu'ils avaient fait, puis de leur promesse de revenir vers Dieu. Et ils ont répété cela encore et encore et encore. Passons au chapitre 19 de l'Exode. Exode 19. À quel point l'accord conclu avec Abraham était-il simple? Abraham, obéis-moi, et je ferai de toi une nation. C'était littéralement cela. Et la partie la plus importante de l'épreuve d'obéissance concernait évidemment Isaac. Mais avant cela, il y avait, es-tu prêt à tout quitter? Es-tu prêt à te lever et à tout laisser derrière toi? Et Abraham l'a fait, et Dieu a dit, très bien. Si je veux tenir ces promesses, je vais passer à l'étape suivante. J'ai besoin de prouver ton obéissance. Tu fais partie de l'accord, tes conditions sont une obéissance totale envers moi, a dit Dieu à Abraham. Et il eut plusieurs épreuves tout au long de ce processus pour s'assurer qu'il respectait sa part du contrat. Si vous signez un contrat, si vous contractez un prêt auprès d'une banque ou toute autre transaction de ce type, il y a des épreuves. Si vous ne payez pas les mensualités de votre voiture, vous échouez à l'épreuve. Cela peut avoir des répercussions. Au final, on vous reprend votre voiture. Dieu voulait qu'Abraham passe ces épreuves pour s'assurer que son obéissance, ces conditions étaient respectées. Et lorsqu'il les a réussies, Dieu lui a fait ses promesses et les a tenues. Et cela s'est transformé en un système de gouvernement complet, car avec une seule personne, il s'agit simplement d'une épreuve d'obéissance. Avec une nation, il faut un mode de gouvernement, un culte, il faut la justice, il faut la vie nationale, le cadre définissant ce à quoi ressemble une nation et comment elle fonctionne. Vous en êtes probablement à l'Exode chapitre 19 à ce stade. J'ai deux chapitres de retard, alors laissez-moi y arriver. Exode, chapitre 19, à partir du verset 3. Verset 3, Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et ce que tu annonceras aux enfants d'Israël. » Nous sommes sur le point de définir certaines conditions pour ce prochain contrat, ce prochain accord. Les choses s'étaient assombries pendant un certain temps. Abraham n'était plus là, donc la situation avait changé, mais vous avez désormais cette grande nation. Elle sort de la captivité. Elle se portait bien. Vous pouvez repenser à tout le récit de l'Ancien Testament, à Josué, et à l'entrée en Égypte. Tout cela s'est produit, et maintenant, le peuple est sorti d'Égypte. Et maintenant, Dieu a dit, rétablissons les conditions. L'ancien contrat n'est plus applicable de la même manière. Nous ne sommes plus une seule personne ni une seule famille. Nous sommes une nation. Et maintenant, les conditions doivent être élargies pour s'appliquer à tout le peuple, tout comme les parties concernées par un changement devraient modifier, mettre à jour, adapter ou élargir les conditions. Si j'ai un accord avec deux personnes, prenons un autre exemple. Si vous avez personnellement un accord avec, disons, une banque, et que cette banque est rachetée par une autre banque, soudain, le contrat que vous avez devra peut-être être modifié pour que ces clauses s'appliquent à cette nouvelle organisation. Or, Dieu n'a pas changé. C'est lui qui détenait le contrat initial. La famille est devenue une nation. Certains de ces termes ont donc dû être modifiés, car il s'agissait désormais d'une banque bien plus grande, si l'on peut dire. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Or donc, si vous obéissez vraiment à ma voix, cela vous semble-t-il si différent? Et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Eh bien, monsieur Chelofé, vous avez dit que les choses avaient changé. Nous y venons. Mais le but a-t-il changé? Je ne sais pas. Dieu a toujours voulu que les gens lui obéissent tout simplement parce qu'il nous a créés. Il sait comment vous et moi pouvons mener une vie heureuse, épanouie et, en fin de compte, abondante en faisant ce qu'il nous dit de faire. Ce qu'il veut donc vraiment, c'est que vous et moi soyons capables de lui obéir tout simplement pour recevoir ses promesses. Cela n'a jamais changé, ni à l'époque d'Abraham, ni à celle d'Israël, ni lorsque Dieu vous a appelé, vous et moi, à notre époque. Il suffit simplement d'obéir. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu agit à travers un seul homme, tout comme il avait agi à travers un seul homme, Abraham, pour fonder une nation. Moïse vint alors convoquer les anciens du peuple et leur exposa toutes les paroles que l'Éternel lui avait prescrites. Et le peuple répondit d'une seule voix. Il dit, « Oui, nous signerons ce contrat. Nous le ferons, Dieu. » La Bible l'exprime ainsi, et ils dirent, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Les deux parties acceptèrent les conditions. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est ainsi que commença ce que nous considérons souvent comme l'alliance de l'Ancien Testament. Mais vous pouvez voir, rien que dans ce récit, que Dieu a dit, « Gardez mon alliance ». Elle avait déjà été établie par Abraham. Cela n'a pas changé, car l'alliance consistait simplement à obéir à Dieu. Mais Abraham était quelqu'un qui devait avoir l'Esprit de Dieu. La manière dont on agit avec quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu est très différente de celle avec laquelle on agit avec quelqu'un qui ne l'a pas, car si l'on perçoit les choses physiquement, on réagit physiquement. On accomplit des actions qui sont physiques. C'est pourquoi, lorsque les gens partent en camp, leur enseignons-nous des choses sur Dieu et sur le spirituel? Oui, bien sûr. Mais le camp consiste-t-il uniquement à enseigner que Dieu est source de plaisir pour les gens? C'est amusant d'être jeune et d'obéir à Dieu, avec tout ce que cela implique, tous les avantages concrets, car ils ont un esprit concret. Cela ne les rend pas inférieurs. Cela signifie simplement qu'ils se trouvent à une étape différente du processus. Tout comme c'était le cas pour l'Israël physique, Dieu voulait qu'ils obéissent. Il leur a imposé toutes ces contraintes afin qu'ils soient, en substance, contraints de marcher d'une manière qui les empêcha de s'égarer. Ils l'ont fait, mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Dieu a rétabli ses termes d'alliance avec ce qui est désormais une nation que Dieu a dit vouloir gouverner. Il a dit qu'il serait une nation de prêtres. Ils accompliraient toutes ces choses extraordinaires. Il les bénirait. Passons au chapitre 4 du Deutéronome, Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Deutéronome 4, 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, toutes les règles qui ont précédé ont été établies, jusqu'à l'obligation d'installer un parapet sur les toits pour que les gens ne tombent pas. Il y avait tant de lois, de statuts et de jugements à mettre en place pour qu'une nation physique et tous les détails nécessaires à son fonctionnement soient en place. Je vous ai enseigné ces lois et ces ordonnances, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Observez-les donc et mettez-les en pratique. Car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront toutes ces lois et diront, assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est-il de si grande qui est un Dieu si proche d'elle? L'obéissance à Dieu révèle, en tant que peuple, même un peuple physique, la présence de Dieu. Elle rend gloire à Dieu, car leur obéissance montre qu'ils accomplissent quelque chose ou qu'ils appartiennent, si l'on veut, à quelque chose de plus grand. Car le Seigneur votre Dieu est présent en toutes choses lorsque nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle nation y a-t-il qui soit si grande et qui ait des lois et des jugements aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Tout était clairement énoncé pour Israël. Il leur suffisait simplement d'obéir à Dieu. Ils avaient la possibilité de former une nation physique parfaite, mais ils ne l'ont tout simplement pas fait. Ils auraient pu démontrer à toutes les nations du monde à quel point les systèmes de Dieu sont justes. Ils auraient pu montrer, voici l'exemple. Voilà comment on obéit. Nous n'étions qu'une nation d'esclaves, et regardez à quel point nous sommes devenus grands et puissants parce que nous obéissons à Dieu. C'était un cycle. Il suffit de se pencher sur l'Ancien Testament. Parfois. Ils s'en sortaient bien, puis ils tombaient dans la déchéance, avant de se relever péniblement. Cela se répète sans cesse, ce qui est propre aux êtres humains. Ils ne disposent pas de la force qui soutient, celle que l'Esprit de Dieu nous donne, à vous et à moi, et qui nous aide. Mais franchement, nous agissons de manière similaire. Peut-être pas de façon aussi extrême qu'une nation. Mais parfois, vous êtes enflammé, et d'autres fois, c'est, Votre ardeur s'affaiblit. Vous demandez à Dieu de vous rendre plus fort, et il le fait parce que vous avez l'Esprit de Dieu. C'est différent. La manière de travailler avec les gens est différente selon qu'ils sont spirituels ou qu'ils sont charnels. La faiblesse ne résidait donc pas dans les lois, les statuts et les jugements. Non, 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 non. La faiblesse résidait dans la volonté des gens de s'y conformer. Ce n'était pas une question de capacité. Ils en étaient capables. Si on me dit que je dois construire quelque chose d'une certaine manière, ou si on me dit qu'une offrande doit être faite ainsi, ou qu'il faut tuer tel type d'animal, l'abattre de telle façon et le placer sur le poteau, si on me donne toutes ces étapes, c'est une fiche d'instruction. Si je fais de l'exercice le matin et que je consulte la liste des exercices à effectuer, c'est une notice d'instruction. Je choisis simplement de suivre ces instructions, ou je ne le fais pas. Israël a simplement choisi de ne pas les suivre, encore et encore. Donc, quatrième point, la faiblesse de l'ancienne alliance ne résidait pas dans la loi de Dieu. Encore une fois, la faiblesse de l'ancienne alliance ne résidait pas dans la loi de Dieu. Israël a échoué à rester fidèle, encore et encore. Jérémie a prédit le moment où la nouvelle alliance serait établie avec Israël et donnée à Juda, car il n'arrêtait pas d'échouer, d'être emmené en captivité, de faire appel à un juge, ou quoi que ce soit d'autre, encore et encore et encore, parce qu'il passait par des moments, comme les êtres humains ont tendance à le faire, où, lorsque les choses sont difficiles, ils crient vers Dieu. Peu m'importe que vous soyez athée, mais si vous voyez du feu et du soufre tomber du ciel, à moins d'en arriver au point d'être complètement brûlé, mais si ce n'est pas le cas, vous devenez soudainement un croyant très fervent lorsque la mort vous regarde droit dans les yeux. Cela ne signifie pas nécessairement que vous croyez en la bonne chose, mais vous êtes beaucoup plus ouvert à une puissance supérieure lorsque la mort est proche. Quand tout va bien, il est plus facile de se fier à notre propre raison, de compter sur nous-mêmes, de se dire, tu sais quoi? Je m'en sors très bien. C'est ce qu'a fait Israël. Passons au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux cite le récit de Jérémie. Nous allons donc l'examiner sous l'angle du Nouveau Testament. Chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Commençons au verset 6. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, dans la mesure où il est aussi le médiateur d'une alliance meilleure, une alliance meilleure, qui a été établi sur de meilleures promesses. Très bien. Laissons cela faire son chemin pendant que nous lisons. Car si cette première alliance avait été sans défaut, bon, attention à ne pas tirer de conclusions hâtives, alors il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Donc, si la première avait permis à tout le monde d'agir correctement, aurions-nous besoin de la seconde? C'est ce que le texte semble indiquer. Continuons. Verset 8, ayant trouvé à redire à leur égard, quand on dit « sans défaut », ce n'est pas la loi de Dieu qui est en défaut. Ayant trouvé à redire à leur égard, il a dit, « Voici, les jours viennent, rappelez-vous, nous citons Jérémie. Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance. » Elle viendra. Il n'est donc même pas question ici de l'alliance du Nouveau Testament. Il est question des jours où elle viendra. Une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non pas selon l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Non, c'est différent de cela. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Non pas parce que mon alliance était mauvaise, mais parce qu'Israël n'a pas obéi. La seule façon d'échouer face à ce que Dieu nous a donné, à vous, à moi et à Israël, à chaque homme depuis Adam, lorsqu'il a été choisi pour être capable de faire ce qui est juste et qu'il ne l'a pas fait, c'était cet objectif de faire partie de la famille de Dieu. C'est le contrat qu'il a établi avec nous. Mais l'humanité n'a cessé de commettre des erreurs. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je ne les ai pas considérés. C'était un peu comme si Dieu avait dit, d'accord, très bien. Vous voulez rompre le contrat? Je le romprai moi-même. Car voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dans un avenir pas trop lointain, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit, et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai pour eux un Dieu, et ils seront pour moi un peuple. La seule façon pour que la loi de Dieu passe du statut de texte que l'on peut lire dans un livre à celui de quelque chose qui est dans nos esprits, inscrit dans nos cœurs, c'est que nos cœurs passent de cet état de cœur de pierre, que possèdent les êtres humains physiques, à celui d'un cœur de chair dans lequel Dieu peut alors écrire. C'est cela, la conversion. Lorsque nous sommes convertis, Dieu est capable d'inscrire des choses dans nos cœurs. Ce qu'il dit donc, c'est, il viendra un temps où j'agirai auprès d'une nation comme Israël, car il les appelle Israël et Juda. Il s'agit donc du même peuple, mais la manière dont il agira auprès d'eux changera, car toute la nation sera animée par l'Esprit de Dieu. C'est une manière très différente d'agir auprès des gens. Vous et moi, nous sommes fondamentalement différents dans la manière dont Dieu agit en nous, car nous avons son esprit en nous. Cela a transformé notre esprit. Cela nous permet de changer. Cela nous permet de rejeter certaines pensées, de contrôler nos pensées. Cela nous permet de grandir, de nous développer et de devenir davantage à l'image de Dieu, de revêtir Christ, puis de forger ce caractère. Car il va inscrire cette nouvelle alliance dans leur esprit. Et le fait d'avoir l'Esprit de Dieu ouvre la voie au changement. En fin de compte, ce changement consiste à devenir comme Dieu et à recevoir la vie éternelle. La faute leur incombait. Le peuple n'a tout simplement pas persévéré dans l'alliance. Les mêmes lois sont placées dans notre esprit et inscrites dans notre cœur. Nous devons obéir à Dieu, car c'est là l'essentiel. Tout ce qui s'ajoute à cela, les sacrifices, les statuts, tous les détails sur la manière de manifester la conversion, l'obéissance et la repentance, exigés, pour une nation physique, des actions physiques et des sacrifices. Toutes les offrandes de sang et les offrandes sacrificielles de base, on pourrait énumérer toute la liste des offrandes, visait simplement à montrer à une nation physique à quoi devait ressembler la conversion, la repentance et l'obéissance lorsqu'elles sont inscrites dans nos cœurs. Dieu va donc rétablir les sacrifices au cours du millénaire, dans leur royaume, afin de montrer aux gens à quoi cela ressemble, car tout le monde ne possédera pas d'emblée l'Esprit de Dieu. Vous aurez de nouveau affaire à des personnes physiques. L'Esprit de Dieu n'est pas répandu universellement, car il y a encore des personnes physiques. Il faut donc accomplir ces actes physiques. Ils seront simplement administrés de manière beaucoup plus large. Et parmi ces nations, parmi ces peuples, parmi Israël, il y aura davantage de personnes converties. Ce ne sera pas une poignée de prophètes ici et là, ni de petits groupes. Non. Ce sera beaucoup plus vaste, ce qui créera une dynamique bien plus forte à mesure que nous avancerons vers le millénaire. Ce système physique sous-tendait une réalité spirituelle dont l'humanité ne disposait tout simplement pas, car Dieu était avec elle de manière générale, mais pas en elle spirituellement. C'est ce que vous et moi possédons. Ce simple changement, qui est le plus remarquable, le plus incroyable, le plus passionnant et le plus révolutionnaire de l'univers, c'est lorsque l'Esprit de Dieu entre en interaction avec notre esprit et transforme qui nous sommes. Pas de l'extérieur. Vous et moi avons exactement le même aspect que lorsque nous avons été plongés sous l'eau et que les mains ont été posées sur nous. Peut-être un peu plus âgés, un peu plus grisonnants, un peu plus ronds au niveau de la taille, mais physiquement, nous avons en quelque sorte toujours le même aspect. Spirituellement, nous sommes très différents. Et les gens le voient à travers nos actions. Vous révélez votre état spirituel par ce que vous faites. Moi aussi. C'est pourquoi nous pouvons être un exemple. C'est pourquoi nous sommes la Bible que la plupart des gens ne lisent jamais, mais qu'ils voient en nous. C'est pourquoi les conjoints de ceux qui fréquentent l'Église s'adoucissent généralement avec le temps, car ils voient cette personne grandir, évoluer, devenir un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur père ou une meilleure mère. C'est là le changement spirituel que Dieu opère en nous. Venons-en donc au point numéro 5. Le système physique enseignait des réalités spirituelles plus grandes. Encore une fois, le système physique enseignait des réalités spirituelles plus grandes. Israël ne l'a tout simplement pas vu, mais vous et moi pouvons le voir en jetant un regard en arrière, en revenant à ce que dit l'Ancien Testament. Nous pouvons percevoir ces réalités spirituelles en nous préparant dans une perspective spirituelle. Il en sera de même pour la nation d'Israël. Il en sera de même pour toutes les nations du monde. Il en sera de même dans le royaume de Dieu. Ils pourront regarder en arrière. Vous pouvez regarder en arrière. Nous pouvons enseigner ce qui s'est passé à l'époque pour montrer les réalités spirituelles et comment cela s'applique à eux, tout comme cela s'applique à nous aujourd'hui. Il s'agit d'un être qui n'a pas élaboré un plan à la va-vite. Lui et Christ disposaient de l'éternité. Ils ont mûrement réfléchi à tout cela. Ils ont prévu toutes les implications. Un bon stratège, quelqu'un qui joue aux échecs, peut envisager différentes voies, différents coups, différentes variantes. Nous parlons de Dieu. Il voit à travers le temps, à tel point qu'il savait que tu serais assis sur la chaise où tu es assis aujourd'hui. Vous auriez pu dire non, bien sûr, mais Dieu allait vous appeler. Il savait qu'il allait appeler quelqu'un qui serait vous ou moi. C'était à nous de dire, oui, Dieu, je t'obéirai et je continuerai à le faire tout au long de notre vie. Mais c'est un être dont la vision était bien plus large, bien plus globale, si l'on peut dire, que la nôtre. Israël n'avait tout simplement pas cette capacité intérieure nécessaire à une obéissance durable. Car vous et moi, nous échouons parfois aussi, n'est-ce pas? Nous péchons. Nous avons des doutes. Il y a des moments où nous ne sommes pas aussi forts. Nous avons des faiblesses. Nous faisons des choses en nous disant, oh, je ne m'en sors pas très bien, mais Paul aussi. Rappelez-vous, il a dit que son corps physique luttait contre lui. Alors, avec l'Esprit de Dieu, et nous l'avons imaginé ce qui était essentiellement impossible à accomplir pour une nation sans lui. Mais ces institutions ont contribué à encadrer les questions spirituelles. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, nous allons donc nous rendre au chapitre 9. Chapitre 9, verset 6 sort, lorsque ces choses étaient ainsi établies, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle pour accomplir le service de Dieu, c'est-à-dire toutes les prescriptions. Mais dans le second, le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an, non sans du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les fautes du peuple. Une fois par an, le jour des expiations. Et le Saint-Esprit, en cela, indiquait que le chemin vers le Saint des Saints n'était pas encore manifesté, tant que le premier tabernacle subsistait encore. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné à tout le monde, car vous et moi, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé de cette manière, mais vous et moi, chaque fois que nous nous mettons à genoux, nous entrons dans le Saint des Saints. Nous nous présentons devant Dieu. Si quelqu'un en Israël faisait cela en dehors du jour des expiations ou le faisait le jour des expiations, sans être le grand prêtre et sans avoir accompli toutes les formalités requises, il mourrait. Ainsi, vous et moi avons la possibilité de nous présenter devant Dieu, dans le Saint des Saints, devant son trône, chaque fois que nous nous mettons à genoux, chaque fois que nous prions. Verset 9. Ce qui était une figure du temps présent, pour nous, où l'on offrait à la fois des dons et des sacrifices qui ne pouvaient rendre parfait, quant à la conscience, celui qui accomplissait le service. Verset 10. Ces choses ne concernaient que des aliments et des boissons, ainsi que diverses ablutions et des ordonnances charnelles qui leur étaient imposées jusqu'au temps de la réforme. Jusqu'au temps du changement, ou jusqu'à ce que Christ s'offre en sacrifice, afin que vous et moi puissions avoir accès au Père et à l'Esprit de Dieu. Ces formes physiques étaient une similitude, un type, ou une représentation concrète de ce que signifie avoir l'Esprit de Dieu et pouvoir se présenter devant lui. Passons à la page suivante, au chapitre 10. Commençons au verset 1. Chapitre 10, verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, continuons ici, en se tendant un peu, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ses sacrifices offerts chaque année sans cesse, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Il le faisait encore et encore, pour les rendre plus semblables à Dieu, pour qu'ils ressemblent davantage à ce à quoi vous et moi nous efforçons d'accéder, avec l'Esprit de Dieu. Car alors il n'aurait pas cessé d'être offert, puisque ceux qui rendaient le culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Non, ce n'est pas cela. Mais dans ces sacrifices, il y a, chaque année, un rappel des péchés. Les gens continuent de pécher et doivent donc continuer à se repentir à chaque jour des expiations, mais aussi chaque fois qu'ils offraient des sacrifices pour le péché. Verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Dieu vient de l'illustrer, n'est-ce pas? On ne peut pas enlever les péchés en tuant un animal. Non. La mise à mort de l'animal visait à montrer que des actions devaient être accomplies. Il fallait, en fin de compte, faire preuve d'obéissance pour que Dieu accorde la repentance qu'il nous a donnée, à vous et à moi. Cela représente un grand nombre d'animaux sacrifiés. Beaucoup de personnes ont accompli de nombreux actes pour que vous et moi puissions comprendre l'accomplissement, le but spirituel de ces actes, que nous enseignerons aux gens dans le royaume de Dieu. Nous l'enseignerons à ces mêmes personnes. Imaginez leurs pensées lorsqu'elles se diront « J'ai fait partie d'une nation qui n'a pas très bien agi ». On peut imaginer que la plupart de ceux qui ont échoué lors de ce premier essai s'en sortiront bien mieux la deuxième fois, lorsqu'ils ressusciteront. Surtout quand on leur dira « Vos erreurs vont aider tant de gens », car ce sont vos actions qui nous ont permis de voir, d'apprendre, de nous développer et de grandir. Ainsi, lorsque nous aurons l'Esprit de Dieu, nous pourrons nous inspirer de l'exemple d'Israël, qui a connu des échecs mais aussi parfois des succès, et agir comme il se doit. Tout comme les nations environnantes, nous pourrons observer et voir ce qu'est devenue cette nation modèle dans le royaume pour agir comme il se doit. Ce n'est pas le sang des boucs ou des taureaux qui accorde le pardon. C'est Dieu, par son Esprit, grâce au sacrifice du Christ, qui l'accorde. Voyez-vous comment tout cela est lié? Tel a toujours été le dessein de Dieu. Tel a toujours été le plan de Dieu, depuis Abraham, en passant par l'ancien Israël, jusqu'à l'époque du Nouveau Testament et, finalement, jusqu'au royaume de Dieu. C'est à cela que vous et moi avons la chance de prendre part. Et avec Jésus-Christ, ses leçons matérielles, ses exemples, tout ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament, une sorte de profil, si l'on veut, a pris une dimension bien plus spirituelle dans sa réalité effective. Donc, sixièmement, Christ a fait entrer les types physiques dans leur réalité spirituelle plus grande. Sixièmement encore, Christ a fait entrer les types physiques dans leur réalité spirituelle plus grande. Dieu n'a pas changé ce qu'il avait fait. Il a élargi ce qu'il avait fait. Cela s'est développé. Le système antérieur était conçu pour être une préfiguration du Christ. Il n'a pas rendu ses leçons dénuées de sens. Christ n'a pas nié tout ce que Dieu avait fait auparavant, car cela reviendrait à le modifier. Si Christ était venu dire, « Oui, tout ce qu'Israël a fait auparavant était faux. Tout ce que Dieu a établi était faux. » Vous pouvez jeter l'Ancien Testament. Nous allons écrire un nouveau livre, et ce sera simplement ce Nouveau Testament. Vous n'avez pas besoin de l'Ancien. Et ensuite, nous serons tous baptistes. Dans bien des cas, c'est ce qu'est devenu la religion moderne. Ignorons l'Ancien Testament. Parlons simplement de Dieu. Parlons du Christ. Il ne parle même plus de Dieu. Il ne parle que du Christ. Le sacerdoce, les sacrifices, la purification, l'accès à Dieu ont été transférés vers une administration plus grande et plus durable. Ainsi, l'administration de cette alliance perpétuelle n'avait pas vraiment changé, car le but, l'accord initial, était l'obéissance et l'accomplissement d'une promesse. Abraham a même dit qu'il contemplait la cité de loin. C'est ce qu'il attendait. Il comprenait ce que la promesse deviendrait grâce à son obéissance. Vous et moi, nous contemplons la cité de loin grâce à notre obéissance. Les termes n'ont jamais changé. C'est l'administration de ces termes qui a changé. Mais le but n'a cessé de grandir, encore et encore. Nous sommes donc toujours dans l'Épître aux Hébreux. Revenons quelques chapitres en arrière, au chapitre 7. C'est un seul livre. La Bible est un seul livre. Le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien. L'Ancien est le fondement du Nouveau. C'est pourquoi il est cité si souvent. Si vous retiriez toutes les citations de l'Ancien Testament du Nouveau Testament, il ne vous resterait qu'une brochure. C'est ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Les deux s'unissent pour nous permettre de voir Dieu dans toute sa plénitude. Cela ne transforme pas Dieu en un monstre. Non, cela fait de Dieu un être bien plus grand que ce que les gens aiment lui attribuer. C'est pourquoi on voit souvent le petit enfant Jésus dans la crèche. Cela rabaisse un être qui est éternel. Hébreux, chapitre 7, verset 24. Verset 24. Mais cet homme, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce immuable. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur, Christ. Car c'est un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, Christ s'est fait chair, s'est fait homme, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. Il est redevenu un être divin lorsqu'il est ressuscité, qu'il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Car il l'a fait une fois pour toutes. Il s'est offert lui-même. C'est ce qu'a fait Christ. Un être divin qui n'avait jamais péché, qui ne s'était jamais souillé, s'est offert en sacrifice suprême, mes frères, et c'est pourquoi vous et moi avons aujourd'hui accès à Dieu le Père. C'est pourquoi nous avons accès à un Saint-Esprit qui transformera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est pourquoi Dieu peut mettre dans nos esprits à la fois ce qu'il faut faire et la volonté de le faire, ainsi que la signification ultime de ses lois, de cette obéissance, de ses jugements et de ses promesses, et la manière dont ils s'accomplissent. Christ est pour toujours notre grand prêtre suprême. Le besoin d'un sacerdoce n'a pas disparu. C'est pourquoi nous allons devenir rois et prêtres. Nous avons désormais un grand prêtre éternel. Bien sûr, nous comprenons qu'il y aura une phase où il y aura un grand prêtre physique au sein de la nation d'Israël, puis le royaume de Dieu sera établi, et nous comprenons le processus par lequel il accomplit cela. Tout comme à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Dieu accomplit ces choses par étapes. L'accomplissement ultime, c'est le millénaire, puis tout ce qui se trouve au-delà. Il y a donc des étapes dans le Nouveau Testament, tout comme il y en a dans l'Ancien. Christ est le grand prêtre parfait qui s'est offert lui-même en sacrifice parfait. Revenons au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Nous faisons ici quelques allers-retours. Il y a beaucoup à dire à ce sujet dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 9, verset 11. Verset 11. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette construction, en regardant autour de nous le temple de l'époque, ni par le sang de bouc et de veau, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Il était, si l'on peut dire, le dernier grand prêtre qui devait accomplir cela pour que nous puissions avoir accès à Dieu le Père. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse, répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie et purifie le corps, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre, ma, notre, conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Christ nous a donné accès. Verset 15. Et c'est pour cette raison qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le nouveau contrat. Lorsque les paramètres se sont élargis, lorsque les détails et l'administration ont changé, car nous avons désormais affaire à des êtres humains convertis, voilà ce qu'est l'Église. Ce n'est pas une masse d'individus, une nation, comptant en son sein quelques personnes converties. C'est désormais une organisation composée d'individus convertis. Cela fait une énorme différence dans la manière dont on travaille avec les gens. Un esprit converti est très différent d'un esprit non converti. Médiateur du Nouveau Testament, verset 15. Continuons, afin que, par sa mort, pour le rachat des transgressions commises sous le Premier Testament, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse d'un héritage éternel. L'appartenance à la famille de Dieu. Le dessein de Dieu a toujours été de passer d'une famille, celle d'Adam et d'Abraham, à une seule famille, la famille de Dieu. Ce n'était pas une question de sang. Ce n'était pas une question de sacrifice. Ce qui lui tenait à cœur, c'était l'obéissance. Non pas parce qu'il était une sorte de grand ogre trônant dans les cieux et les nuages et disant « Je veux de l'obéissance ». Non, ce n'était pas ce qu'il faisait. Il savait que c'était ainsi que les gens étaient heureux, épanouis, car c'est lui qui nous a créés. Il connaissait la manière dont nous devions mener notre vie, et il savait que Satan nous inciterait à faire des choses qui ne nous rendraient pas heureux, ne nous apporteraient pas l'épanouissement, et ne nous permettraient pas de connaître l'abondance et la joie que Dieu avait prévue pour nous tous. Par Christ, Dieu a commencé à graver sa loi dans l'esprit d'un nombre bien plus grand encore de personnes, soit finalement 144 000 qui remplissaient les conditions pour faire partie de cette première vague. Numéro 7. Dernier point ici. Le royaume unira le gouvernement extérieur à la conversion intérieure. Répétez-le. Numéro 7. Le royaume unira le gouvernement extérieur à la conversion intérieure. C'est cela qui change dans le royaume de Dieu. Pas l'alliance, pas le but, pas les conditions. Rappelez-vous que l'alliance, dans un certain sens, correspond à certains détails du contrat. Les éléments fondamentaux originels du contrat sont l'obéissance à Dieu, qui vous apporte des bénédictions et, en fin de compte, l'accès à la famille de Dieu. La manière d'y parvenir correspond à l'ensemble des détails du contrat de l'alliance. Si je souhaite créer une entreprise, que je la constitue en société, que je rédige un contrat, que j'embauche un salarié ou que vous ayez une fiche de poste, celle-ci explique en détail toutes les conditions pour percevoir votre salaire. Voici ce que vous devez faire. Voici ce qui doit être accompli, etc. Mais au final, il s'agit d'un salaire. Vous acceptez de m'embaucher, j'accepte de faire tout ce que j'ai engagé à faire, et vous me verserez un salaire. Dieu dit, en fin de compte, excusez l'analogie, je vais t'embaucher, voici tout ce que tu dois faire, et ton salaire, ton héritage, ta bénédiction ultime, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Selon ce à quoi ressemble cette fiche de poste, que tu sois plombier, mécanicien, programmeur, ou n'importe quel métier intermédiaire, comptable, peu importe, les détails de ce contrat seront très différents. Ce que vous faites au quotidien pour obtenir ce salaire sera différent selon votre description de poste. Lorsque Dieu travaille avec différents types de personnes, la description de poste varie, mais l'objectif reste le même, je vais t'embaucher, et si je le fais, tu remplis toutes les conditions, je te verserai ton salaire. Cela ne pourrait pas se produire si l'on n'avait pas une vision d'ensemble, du moins à grande échelle. Car nous ne sommes encore qu'un grain de moutarde, nous sommes encore minuscules, nous formons un petit troupeau. Ainsi, même lorsque Dieu donne son esprit, il œuvre avec un petit nombre de personnes. Passons à Ésaïe 2. Le chapitre 2 d'Ésaïe, alors que nous arrivons à la fin. Ésaïe, chapitre 2, verset 1. Ésaïe 2, 1. La parole qui fut adressée à Ésaïe, fils d'Amoz, concernant Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fermée au sommet des montagnes, dans les derniers jours, et s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations afflueront vers elle. Verset 3. Et de nombreux peuples iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 4. Il jugera parmi les nations et réprimandera de nombreux peuples. Et ils forgeront leurs épées en soc de charrue, et leurs lances en serpe. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Les choses changent. Le gouvernement de Dieu s'étend désormais au monde entier. Et en son sein, les relations entre ces peuples changent. Passons à Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais changé. C'est la manière dont il traitait les groupes qui a changé. Mais même la manière dont il traitait Abraham, ou Israël, ou d'autres nations, ou l'Église du Nouveau Testament, visait en fin de compte à mettre toutes les pièces en place, afin qu'il puisse rassembler tous ces éléments et les réunir en un tout dans le royaume de Dieu. Encore une fois, c'est pourquoi ce point est important. Dieu unifie le gouvernement des nations, du monde entier, avec la conversion des individus. Ézéchiel chapitre 36, verset 24 « Car je vous retirerai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre propre pays. Je répandrai sur vous de l'eau pure, et vous serez purifiés, vous recevrez l'Esprit de Dieu, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous purifierai. On pourrait dire qu'il s'agit d'Israël, mais cela s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations. Chapitre 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez mes ordonnances et que vous les mettiez en pratique. Et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Tout comme Dieu l'a toujours voulu, que ce soit pour Abraham, pour Israël ou pour l'Église du Nouveau Testament. Il voulait que cela serve d'exemple, car en fin de compte, il s'agirait d'une nation et d'un peuple converti. Dans le royaume de Dieu, les deux sont réunis. Au départ, l'accent était mis sur Israël, mais en fin de compte, il est mis sur l'humanité tout entière. Rappelez-vous, Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a ni hébreu, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Son but est d'élargir la famille de Dieu. Tel a toujours été le dessein. Telle a toujours été sa volonté. Au lieu d'un gouvernement fonctionnant indépendamment de la conversion, ces deux éléments fusionnent et deviennent des personnes converties œuvrant sous l'autorité d'un gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement de Dieu au sein de l'Église est si important. C'est un petit exemple de ce qui s'étendra à l'ensemble du monde. Nous exerçons le gouvernement de Dieu dans son Église de la même manière. Frères et sœurs, chaque étape des contrats de Dieu, de ses alliances, de ses conditions, de ses paramètres, de ses jugements, de ses statuts, quel que soit le terme que vous souhaitiez employer, a toujours eu pour but d'aboutir à un seul résultat, que la loi de Dieu, son gouvernement et son Saint-Esprit s'étendent à tous les êtres humains qui ont jamais vécu. C'est une réalité qui dépasse de loin une simple période de temps. Vous voyez donc que Dieu n'a jamais changé. Son administration de son alliance a peut-être changé, mais sa volonté, son dessein, son objectif, ses exigences d'obéissance, tout cela n'a jamais changé. Il n'a pas abandonné ce dessein. Il l'a progressivement élargi pour qu'il devienne quelque chose de mondial, le gouvernement, la promesse, la nation, les lois, l'enseignement concret, Christ, la conversion intérieure, puis, en fin de compte, le gouvernement mondial qui relie tout cela entre eux. Les formes sous lesquelles cela se présentait semblaient changer parce que cela avançait vers la destination. C'est donc une affaire sérieuse pour vous et moi, quel que soit le temps qu'il nous reste. Nous devons vivre sous le gouvernement de Dieu. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de nous transformer, afin d'incarner l'exemple de ce à quoi ressemblera le monde entier. Nous ne pouvons pas laisser des futilités nous détourner de cette voie. Nous devons changer, grandir, nous développer et mettre à profit le temps qui nous reste, car c'est là la promesse que Dieu nous a faite si nous lui obéissons. Or, l'obéissance exige que vous et moi changions. Dieu n'a donc jamais changé son dessein. Il œuvre toujours en vue de ce même dessein. Il a commencé avec Abraham, voire, pourrait-on dire, avec Adam. Notre responsabilité reste de rester fidèle à ce dessein, de nous soumettre pleinement à son gouvernement, afin qu'il puisse accomplir en vous et en moi cette œuvre spirituelle plus grande qu'il a commencée lorsque vous avez été baptisés. Cela nous permettra, à vous et à moi, de régner dans le royaume de Dieu lorsque ce gouvernement s'étendra sur le monde entier et qu'il étendra cette alliance et cette promesse à toute l'humanité. Puissions-nous tous, chacun d'entre vous, moi et nous tous à travers le monde, être là pour y prendre part.